Alléluia. Alléluia. L'enseignement d'aujourd'hui est sur les attributs de Dieu. C'est beaucoup d'une fondation très solide. Et vous avez un certain confort quant au Père éternel, car Dieu qui est notre Père a besoin d'être connu. Il a besoin d'être connu de ses enfants parce que tous les problèmes de l'être humain sont liés au fait qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Donc nous allons faire un enseignement en deux temps. Pourquoi nous allons le faire en deux temps? Vous avez besoin de digestion. Et digestion. Les digestions d'abord de l'enseignement, compte tenu de son volume, il vaut mieux qu'on y aille graduellement. Donc, nous allons parler des attributs de Dieu. Avec ça, après ça, on va voir la gloire de Dieu. Après la gloire de Dieu, on va voir la tête de Dieu. Après la tête de Dieu, on aura encore quelques sujets. Les Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, etc. Mais vraiment, c'est la bonne nourriture. Très recherché d'ailleurs, pour ceux qui savent la qualité. Donc, mais je dois commencer par vous dire une chose que je vais réitérer dimanche. Vous savez que j'aime souvent vous dire les secrets, non? Ah, alors ça a cuit. Je vous dis. Le Seigneur m'a montré ce matin, quand il était 8 heures par là, que tout ce que je vous donne comme recommandation, c'est des évaluations. Mais comme vous n'avez pas réalisé que c'est vraiment des évaluations, il en fait des examens officiels. Vous avez vu tous en train de composer. Comment? Ah, elle ne savait pas. Je vous ai vu tous en train de composer. J'ai l'obligation de vous dire ce qu'il m'a montré ce matin. Mais tu devais à 6 heures comme vous tous là. Puis que Maël dormit encore un peu. Là, alors il a pensé à me sortir les rapports. Et au moins 5 rapports sur 5 dossiers différents. Donc le dossier là. Chaque fois que tu leur donnes quelque chose, c'est une petite évaluation. J'en fais des évaluations officielles. Tout le monde est en train de passer son examen ce mois-ci. Tout le monde. La salle de classe était pleine. Comment un petit peu? Parce que d'abord, vu que bon, vous avez donné un examen ordinaire, quelque chose, vraiment tout a changé. Toutes les copies sont devenues les copies d'examen officiel. Il dit, ok, là, ça a pu. En fait, c'est que, et je vais vous donner mon secret, il est à deux niveaux. Sachez qu'avec Dieu, on est évalué tous les jours. Et il y a des grandes séquences. Donc, la meilleure manière de marcher avec Dieu, c'est de se préoccuper tous les jours de passer son examen. Il n'y a pas un jour où la marche avec Dieu n'est pas importante. C'est parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas appris la marche avec Dieu pour des négligences, vous avez des jours, des négligences. Ou bien vous avez pris les mauvaises habitudes de l'église traditionnelle, où vous êtes chrétien une fois par semaine. C'est-à-dire, vous faites la confession le samedi après avoir fait les heures de lundi à vendredi. Non, le lundi à samedi après-midi, vous allez vous confesser et dimanche, vous allez vous réunir avec Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Celui qui connaît la marche avec Dieu sait qu'il est évalué tous les jours. Et il est chrétien à chaque instant de sa vie. Donc, le premier secret que je vous donne aujourd'hui, je vais réitérer quasiment, parce qu'il y a beaucoup d'absents. Préoccupez-vous d'être conforme devant Dieu tous les jours. Vous intéressez à sa parole tous les jours. Ça, c'est le premier secret. Deuxième chose, ayez conscience d'être évalué tous les jours. En elle, il faut vraiment en avoir une conscience claire. C'est vrai qu'il y a les grandes séquences. Il y a les grands moments d'évaluation que Dieu peut annoncer. Comme par exemple, cette fin du mois, c'est l'anniversaire, donc nécessairement, il y a les gens qui doivent passer les examens. Il y a les gens qui vont passer en grade, etc. Mais le passage en grade, là, tient compte de chaque journée avant. Il y a plusieurs examens intermédiaires. Donc ça, c'est un dossier très sérieux. Prenez conscience du fait que vous êtes en plein examen. Si vous êtes perdu dans ce que je dis, rappelez-vous que j'avais donné 12 recommandations ici. J'ai donné 12 recommandations ici. Au-delà des 12 recommandations, j'ai donné les livres à lire par semaine, les thèmes dedans, à méditer et à pratiquer. Cette semaine qui vient de commencer, je pense qu'on va traiter du mariage, le livre du mariage. Il y a des recommandations par rapport à la vie d'un ministère, etc. Il y a des recommandations par rapport aux ouvrages précédents que vous avez lus, à savoir... tu es formidable, inquiétude, veux-tu être riche, c'est les trois présidents qu'on avait recommandés, celui qui a seulement sur le mariage. Donc c'est une affaire assez extrêmement sérieuse. Et si on ne vous enseigne pas les choses comme ça, si vous ne vous rendez pas compte de la dimension purement pédagogique de ce que nous sommes en train de faire, vous passez à côté de la place. Donc, à titre d'information, tout le ministère en pleine évaluation, examen officiel, les résultats vont sortir. Donc, vous dites comment vous cachez souvent l'oukot. Affaire est sérieuse. Je donne d'autres éléments que certains ont tendance à ignorer ou à négliger la ponctualité. Il y en a qui se disent que non, on s'en va là-bas, on va arriver après l'envoyé. Surtout que l'enseignement n'est pas important, ce qui est important, c'est quand il va commencer à déclarer, on va dire, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Ça, c'est ça qui est bien. Or, vous n'avez rien compris. Vous avez déjà eu la preuve plusieurs fois que vous commencez à recevoir partout où vous êtes en train de suivre tout simplement l'enseignement. Et c'est même parce que je reste encore dans une dimension pédagogique que je fais certaines choses. Parce qu'il faut aider les uns et les autres à affirmer leur foi. En réalité, je vais vous le dire aujourd'hui, parce que certains n'ont pas compris cela, vous traitez vos maladies en tant qu'instrument de guérison, en tant qu'instrument de délivrance. Je n'ai pas besoin de déclarer que je te délivre ou dire à un démon de sortir. Je n'ai pas besoin de ça. Pour les dispositifs qu'il y a dans ce ministère, il suffit que vous soyez en train de m'écouter, vos délivrances se passent tranquillement, silencieusement, sans spectacle. On a essayé ça plusieurs fois. Mais cette semaine-ci, j'ai eu deux messages qui signifiaient la même chose. Le Seigneur ne sait que, mais j'ai tout mis encore pour que tu fasses tout simplement et facilement. Et il a fait ça à cause de ce que nous avons fait en journée. Bien, quand tu es venu me voir, qui était malade, elle est venue avec son mari. Pour lui, on commence à prier sur elle. Comme quelqu'un prie jusqu'à transpirer, je ne suis pas. Ouais. Sauf que voilà, là, la phrase est complète. Donc, à qui il n'y a pas su ça, sauf que, ou que sauf, c'est une phrase incomplète. Alors que je le fasse, j'ai commencé à lui parler de Dieu. Au bout de 5 minutes, je lui ai demandé si tu as encore mal. Elle dit non. Il y a ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez plus, c'est ce dont vous avez plus besoin de connaître Dieu. Ce n'est pas compris sur vous ou des choses de ce genre, non. Ce dont vous avez besoin, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître la parole. Connaître cette parole et la mettre en pratique. J'ai vu les gens me sortir des yeux là tout à l'heure quand je leur dis qu'ils sont en pleine évaluation. Donc vous ne saviez pas. Donc vous voyez que la cancellation fait ça pour moi. Vous pouvez faire le mpungu, les désordres quand vous voulez. Il n'y a pas d'évaluation. C'est quand on va annoncer. Non. Si vous avez compris la marche avec Dieu, vous devriez savoir que vous êtes en permanence évalué. Si vous pouvez être correct. C'est pourquoi j'évite de plein de façons de vous embrouiller dans les faux débats. Vous n'avez rien à trouver dans les débats religieux. Parce que ce sont les choses qui vous distraient. Entrez dans les débats religieux, les débats d'appartenance. Paul a eu ça à son époque. Non, moi je suis de Paul, moi je suis de... Paul a demandé que je vienne. Qui a versé, je suis de Barra, qui a versé son sang pour nous. C'est un que Jésus, point final, il n'y a pas de dispersion organisée. Donc les cloisons qu'on vous a mis dans la tête là, pour embrouiller vos cerveaux, vraiment il faut jeter ça loin. Préoccupez-vous d'un seul acte. Et c'est l'acte principal, la relation à Jésus-Christ, la sanctification, la structuration de la relation à Jésus-Christ. Tant que vous restez dans cet acte, vous êtes dans l'acte de l'efficacité, vous êtes dans l'acte de l'efficience, vous êtes dans l'acte de la pertinence, vous êtes dans l'acte de la lumière, vous êtes dans l'acte de la vie, vous êtes dans l'acte de la puissance, vous êtes dans l'acte du bonheur, de la joie, de l'épanouissement et du paradis. Est-ce que je cherche les mots? Ça dépend, c'est moi, moi, c'est la sorte de ma vie. Non, je ne cherche pas. Tant que vous êtes dans l'acte de Jésus-Christ, vous êtes dans l'acte de la fertilité, dans l'acte de la prospérité, dans l'acte de l'abondance des bonnes choses, vous êtes dans l'acte de l'accès permanent à votre héritage. Donc, en fait, comme je vous disais, et là, c'est parce que si on ne voulait pas parler, il a même dit que je ne cherche pas les problèmes. C'est-à-dire qu'ils leur disent qu'ils sont tous en train d'être évalués. Et ça, c'est vraiment extraordinaire que des choses aussi simples puissent échapper à des gens. On a une image qui les montre que d'un côté, l'envoyé donne souvent des évaluations qui ont l'air simples, et le peuple ne les prend pas très au sérieux. Et le Père éternel dit que, ok, les évaluations simples de l'envoyé, là, j'en fais les examens officiels. Et puis, si vous n'avez pas compris, quand je suis en train de vous évaluer, c'est lui qui vous évalue. C'est ça que vous n'avez pas compris. Oh, on a déjà eu un problème ici entre nous. Un juge a donné des recommandations ici pour préparer le fait qu'on partage le pain et le corps du Christ. Le Seigneur m'a sorti le rapport que sur toutes les personnes là-bas, moins de 10% ont appliqué ses revendications, ses recommandations. Mais ils commençaient déjà à plier les doigts. C'est comme ça qu'ils font, hein. Quand mon fils dit de faire, ils ne font pas. Et je vous ai dit qu'il ne faut pas connaître les problèmes. Si je veux que recevoir un rapport sur vous, quand on a donné une recommandation, vous ne suivez pas. Si vous êtes dans un environnement où Dieu ne travaille pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Aucun rapport ne va tomber sur vous. Mais là où Dieu fait un travail, vous-même vous voyez, il parle. Il parle et agit, comme c'est écrit dans Acte 1, verset 1. Il enseigne et agit. C'est comme ça. Donc vraiment, je vais réitérer ça dimanche prochain, mais je préfère vous dire maintenant, parce que vous avez la grâce d'être là. C'est chaud. Allez vous arranger bien. Je vous ai vu vous tous en train de composer. Donc, quand les résultats vont sortir, il ne faut pas que les gens pleurent. Mais donc, tu t'es déjà allumé, non? Pourquoi tu as reculé? Mais j'attendais beaucoup d'argent ce mois, pourquoi c'est allé en haut? Etc. Puisque elle varie. Bon. Quand vous amenez les gens, il faut qu'ils viennent aussi avec les bonnes intentions. Il y a des gens ici qui viennent toujours avec l'intention de voler les grâces. Ils ne savent pas comment faire les comptes rendus. Bon, ce n'est pas grave. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. On va revenir dimanche. Et quand je vais en parler dimanche, c'est là pour frapper. Parce que vous savez, beaucoup de gens estiment qu'on est puissant seulement quand il y a les manifestations de puissance. Ils ne comprennent pas que dans la douceur, c'est la puissance. Ils ne comprennent pas que la guérison, c'est la puissance. Ils ne comprennent pas que l'enseignement, c'est de la puissance. C'est quand je lève la main, je commence à parler, les gens tombent depuis le côté, que qui ça fait, on est là, il est puissant. Et il y en a, mais oui, moi je trouve ça bizarre. Que les gens évaluent la qualité d'un culte sur le nombre de manifestations de puissance. Ou les niveaux de manifestations de puissance. Beaucoup de personnes dans ce ministère ont déjà reçu leur délivrance. Vous voulez que les nouveaux démons descendent sur vous? Pourquoi on frappe à fort, les gens commencent à tomber de tous les côtés? Laissez ceux qui arrivent là-bas avec leurs problèmes subis. Ce n'est pas que vous aussi dites que, mais pourquoi n'est-ce pas? Tandis que d'autres ne veulent pas tomber, d'autres disent que, mais pourquoi je ne suis pas tombé aujourd'hui? Ça, c'est suspect. Il n'avait pas assez de puissance, il disait, ça, c'est normal, je casse au moins deux chaises. L'essentiel de ce qu'il vous faut connaître, c'est dans la parole. Parce que tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Soyez abondamment bénis parce que vous avez compris que vous venez suivre les enseignements. C'est à cause de ce que vous avez compris cela que j'appuie sans réserve l'option suivant laquelle le Père verse plus de bénédictions les mercredis que les dimanches. Qu'est-ce que vous croyez? C'est un grand coaching. Qui a créé le coaching, c'est vous? C'est Dieu. C'est un grand coach qui sait faire le marketing du ciel. Quand Dieu veut t'amener quelque part, il a observé ta façon et réalise. De toute façon, c'est lui qui t'a fabriqué. Si c'est le miel qui t'intéresse, il le met là-bas loin devant. Il dit, mon fils, regarde, hein, c'est pour toi. Si c'est que cela s'est découvert à arriver là-bas devant. Parce que vous êtes déjà nombreux à avoir compris que les enseignements, c'est important. Vous ne venez pas pour le culte avec tout ce qu'il y a comme passe dans le culte. Vous venez recevoir l'enseignement. Mais le Père est au courant et il aime ça. Il a montré une image où les mercredis, parfois, il y aura plus de monde que les dimanches. À certains niveaux, où les gens vont comprendre que bon, on est enseignement mercredi, qui est enseignement dimanche, il faut être là dans les deux enseignements. Il ne faut pas attendre le dimanche. Parce que bon, on est habitué à aller faire le culte ou aller faire la messe. Donc, c'est très important de comprendre les enjeux et les jeux autour de cette affaire. Quand certains se sont réveillés, ils me regardent et les yeux que nous, examen comment. Moi, je suis évalué que j'ai fait quoi. Je vous ai déjà dit dans ce ministère que vous êtes tous des piliers. Un ministère qui a vocation à avoir des dizaines de milliers de fidèles dans un seul espace. Parce que je parle seulement du siège. Rien que le siège qui pourrait avoir des dizaines de milliers de fidèles, c'est-à-dire que quoi? D'ici un an, deux ans maximum, on pourrait s'asseoir quelque part, on est 50 000. Parce que j'ai la grâce de connaître le programme, j'espère que ça va s'accélérer de façon extraordinaire cette année.
Amen.
Donc, quand on a 50 000 personnes à gérer, il faut combien de personnes pour gérer 50 000? Il en faut des centaines, pas des dizaines. Il en faut des centaines en termes de protocoles utiles, etc. Gérer les malades, gérer les visions, gérer les problèmes de possession, gérer les consignes, partager, etc. De toute manière, quand je vous parle, n'est-ce pas que vous avez reçu un enseignement et si vous dites que vous avez ce droit d'avoir des dons spirituels, ben voilà. Quand il dit que vous êtes évalué, vous croyez que qui va être évalué si ce n'est pas vous. Quand vous lisez l'esprit de 2 Timothée 2, le verset 2 à 5, avec Dieu, il y a le mérite. L'athlète n'est couronné que s'il compétit suivant les règles. Vous n'allez pas être accroché à vos choses et dire que vous allez grandir comme tout le monde. Non, il y a un prix à payer. Donc, payez le prix. Bien. Je disais tantôt que nous allons faire aujourd'hui l'enseignement sur les attributs de Dieu. Vous savez, quand on lit la Bible, on se rend compte qu'elle ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Ce n'est pas là où elle est. Mais elle part au contraire de cette hypothèse et décrit les divers attributs de Dieu. Certains de ces attributs lui appartiennent en propre, alors que d'autres se retrouvent également chez lui-même. Vous savez, c'est quelque chose qui m'a souvent amusé. Quand vous avez la grâce de causer souvent à Dieu, il ne peut pas ne pas vous venir à l'esprit que vraiment on lui ressemble beaucoup. Il y a des démarches mentales et comportementales que tu vois chez Dieu qui sont humaines. Et tu te rends compte que vraiment, on vient de lui, hein. Tu te comportes comme ça, vraiment c'est de là qu'on est venu. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'on le connaît. Je vous ai déjà dit que moi, je ne veux pas dire que je connais Dieu. Je trouve ça très dangereux. Il n'y a que les ignorants pour dire ça. Je peux reconnaître certaines de ses démarches ou certains de ses propos à cause du fait qu'il ait pris du temps pour me former personnellement pendant de longs mois. Causer contrairement pendant des mois. 3 ou 4 fois par semaine, on cause 3 heures, 6 heures de temps. Il parle, il écrit, ou parfois on discute tant que rien à écrire. Parce qu'on ne peut pas tout écrire, de toute façon. Et puis, tout n'est pas à écrire, même si tu en as la capacité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut palper pour le comprendre. Si vous n'avez pas une relation directe avec le Père éternel, vous ne pouvez pas arriver à ce sentiment confortable de le reconnaître en nous et de nous reconnaître en lui en se disant que vraiment, l'être humain aussi réagit comme ça. Même l'homme, ouais. Et j'ai vu depuis que Dieu déteste l'injustice. Et il réagit comme un enfant à l'injustice. Comment il n'accepte pas l'injustice. Il déteste le péché là plus que l'homme. On va arriver là. Il déteste la paresse. Il n'aime pas la tricherie. D'ailleurs, quand je vous dis que vous êtes en plein examen, vous savez que l'examen est appuyé sur quoi? C'est toute votre vie qui est examinée, évaluée. Donc vous êtes obligé de réfléchir vraiment sur les piliers que je vous ai donnés. Donc, je voulais d'abord relever ce côté-là, qui est très intéressant d'un point de vue pratique. Et même ça ne peut pas parler si on n'a pas une relation personnelle à Dieu. Il y a des choses qu'on voit chez Dieu, qu'on ne peut pas voir chez l'homme. Il y en a d'autres qu'on voit chez Dieu, qui nous permet de voir que vraiment, de toute évidence, on vient de lui. C'est pourquoi nous avons ces caractéristiques qui nous sont communes, lui, de lui à nous. De l'autre côté, on peut d'abord traiter des caractéristiques, des attributs de Dieu qui lui appartiennent en propre. Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est partout en même temps. Le psalmiste, ce qui a écrit le psaume, déclare que partout où il va, Dieu s'y trouve. Vous pouvez le lire dans le psaume 139, le verset 7 à 12. que comme ça, dans le verset 7 à 12, vous avez l'esprit de Jérémie 23, de 23 à 24, qui explique aussi ça. Dieu est omniprésent. Il est partout. D'un point de vue de la pratique opérationnelle, j'ai la grâce d'avoir des malades à travers le monde. Je n'ai pas qu'à distance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui travaille, mais c'est l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu qui travaille. Quand je suis avec quelqu'un au téléphone, puisque maintenant, grâce à la technologie, nous aussi, on a appris à utiliser tout ça. On utilise Skype, Imo, Viber, WhatsApp, il y a encore quoi. Bon, et le téléphone normal. J'ai des malades qui m'appellent tous les jours à travers le monde. Je traite quelqu'un à distance. Est-ce que c'est moi qui vais là-bas pour qu'il commence à sentir que ça chauffe bien tant qu'on est en train de l'opérer, etc. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est là-bas. Alors qu'il est là des milliers de kilomètres de moi. Je vous ai raconté un cas simple d'un monsieur qui est venu des États-Unis récemment, parce qu'il fallait qu'il me voie, il avait compris que c'était le traité. On lui a parlé de moi là-bas, il est venu, il a fait le déplacement, il a tout fait pour me voir, il est arrivé au bureau. Quand on a fini de causer, j'ai prié pour lui. Ah, fini la prière, bon, il a été un peu secoué, mais il est rentré. Quelque temps après, il est venu, avant de rentrer aux États-Unis, il m'a demandé de prier pour sa femme. Bon, il savait qu'on ne pouvait pas dire, donc après, il a dit que vous pouvez prier pour moi, sa femme. Pendant que je le regardais, là, il a lancé l'appel. L'appel, sa femme qui est aux États-Unis. Je pense qu'il y a des centaines de cas comme ça que nous vivons généralement, très régulièrement. Il lance l'appel. Je dis à sa femme que madame, vous êtes debout, elle dit, asseyez-vous. Ben, elle n'a pas vite compris. Il dit, asseyez-vous, je peux me mettre à prier ou tomber. Je lui ai d'abord montré où ça ne va pas dans son corps, comme d'habitude, petit travail du directif, puisque c'est de la médecine. Après, elle commençait à prier. Elle a commencé à prier, là, la minute, là, elle s'est mise à vomir. Elle a vomi pendant les 5 minutes. C'est l'omniprésence de Dieu qui permet ce genre de choses. Les malades qui appellent depuis la Chine, les gens qui appellent depuis le Sénégal, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire, la France, la Suisse, le Canada, etc. C'est parce que l'Esprit de Dieu est partout que nous pouvons opérer de tels miracles. Et la bonne interprétation, au lieu de dire à un homme de Dieu qu'il est puissant, la bonne interprétation, la plus juste, la plus cohérente, c'est de dire que Dieu l'utilise puissamment. Ce n'est pas qu'il est puissant. Vous allez enlever un homme comme ça d'orgueil et s'il n'a pas bien retenu ses leçons, tant pis pour lui. C'est comme ça qu'il va commencer à regretter. Tu es puissant que tu fais quoi? Dieu t'utilise puissamment. C'est l'Esprit de Dieu qui t'utilise. Tu n'es qu'un instrument vivant. Tu as une partition. Tu as une partition et tu es une partition. Tu n'es qu'un instrument. Que cela vous gêne ou pas, c'est comme ça qu'il faut regarder la réalité. Quand on me dit qu'une femme a un cancer en France, je commence à prier. J'ai eu ce genre de situation. C'est une dame, la poche des os était déjà déchirée. Ça fait plus d'un an. Elle est hospitalisée, les gynécologues disent que là, il faut faire sortir le bébé. La poche des os est déchirée, car le risque d'infection est trop important, le fœtus ne peut pas rester. Je dis à son ami qui est à côté, qu'on ne touche pas cet enfant. Je me mets à prier. La poche des os se referme.
Amen.
Les gynécologues, là, ils n'ont aucune explication. Comment ils n'ont jamais vu la pose des os se refermer? Ils n'ont pas d'explication. C'est l'omniprésence de l'Esprit Saint qui permet de faire ça. Donc, vous devez comprendre les dimensions opérationnelles de ce genre de choses. Je me rappelle d'un homme de Dieu dont on a parlé, j'ai bien ri de ça. Il était au téléphone avec une femme, il était dans deux pays différents. Et il se rend compte que la femme qui est en train de lui parler est possédée. De là où elle était dans une cabine téléphonique, dans le pays où elle était, là où elle était, il dit que par le sourire de Jésus, que j'ordonne au démon qui est dans ce corps, qu'elle a été propulsée de la cabine téléphonique, comme s'il était à côté pour la frapper comme ça. C'est l'omniprésence de l'Esprit Saint qui fait ce comme ça. Nous jouissons de l'omniprésence de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu qui est partout. Il faut connaître ces choses. Bien. Dieu est omniprésent. Cela signifie qu'il est partout en tout temps, en même temps. Et Dieu observe tout ce que nous faisons. C'est ça que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent se cacher. Tu vas te cacher. Dans quel univers? Dieu est omniscient. Ce qui signifie qu'il connaît tout. Vous n'avez pas encore eu la grâce que moi j'ai eu de vouloir discuter avec lui. Vous n'avez pas compris. Tu lui dis à ce qui dit que tu manques. piacere di tua. Perciò quando non è che abbiamo compreso, non è che abbiamo compreso di fare.
Je me dérangeais. Je dérangeais trop.
J'avais beaucoup de pourquoi dans la tête, beaucoup de commandes dans la tête.
Il me regardait parfois parce que l'enfant a dit,
c'est ce que je veux fabriquer plus tard. C'est moi qui mets le pourquoi. Écoute ce que je te dis d'abord, tu veux discuter pourquoi. La marche avec Dieu, si on ne l'a pas appris depuis le bas âge, c'est compliqué. Parce que j'ai un adulte qui vient comme ça, moi, ça se recadre tout. Mais tu. Et les intellectuels ont chaud parce que quand il faut qu'un intellectuel comprenne la marche avec Dieu, il a déjà un format dans lequel il fonctionne. Une démarche mentale et comportementale. Or, la marche avec Dieu n'est pas une affaire d'intellectuel. C'est une affaire spirituelle. Et les intellectuels ont un problème très sérieux. Ils essaient d'intellectualiser Dieu. Il a appris dans ce sens, c'est un homme de schéma de cours. Mais il faut qu'il sorte de ce vocal pour s'étendre. Non, c'est trop compliqué. Il faut vraiment bien comprendre ce que ça veut dire. Dieu sait tout. Il faut vraiment intégrer cela. Si Dieu te dit une chose, moi je rappelle un ami, qui n'est plus actuellement, j'étais allé lui dire un matin, comme il m'a parlé ce matin, sa grand-mère vient de mourir, il reste comme ça.
Il dit que ma grand-mère est morte, ça fait déjà plus de 6 ans. Comment il me dit que ma grand-mère vient de mourir? C'est ça, vous ne comprenez pas l'affaire. À force d'interroger Dieu, je lui dis que mec, elle n'était pas encore morte. On avait juste tué son corps, elle était détruit son corps, elle était aux femmes là. C'est maintenant que son. C'est maintenant qu'elle est morte. Il y a beaucoup de gens dans le femme là, le gym, si vous appelez ça pour con, je ne sais pas encore quoi. Mais ça a beaucoup de noms là.
Dieu au courant de tous vos dossiers, à tous les niveaux, d'arrière jusqu'à devant. Donc Dieu te dit qu'elle a juste commencé à discuter comme ça. Il sait tout. Et c'est plutôt de comprendre ce qu'il veut te dire. Parce que vous aurez la grâce au fur et à mesure que le temps va passer de l'entendre. Dans ce ministère, c'est une certitude. Beaucoup de gens vont avoir des dizaines de personnes, des centaines. En plus, le temps vont avoir le genre de prophétie. Et ça va faire que beaucoup auront une relation personnelle et tout ça. Mais s'ils n'ont pas suffisamment de recul pour cela, parce que quand Dieu te dit quelque chose, au lieu de commencer à discuter, essaie plutôt de comprendre ce qu'il veut te dire. Parce qu'il sait tout. Et ça, j'appuie au niveau opérationnel quelque chose là-dedans. Comme il sait tout, quand il te demande de faire quelque chose, fais d'abord. Ne cherche pas à comprendre pourquoi. C'est une chose élémentaire. Fais d'abord. Obéis. Devant, tu vas comprendre. C'est-à-dire que lève-toi. Va maintenant à toi. Tu vas m'entendre que quoi? Pourquoi? Va d'abord. Mais pourquoi là, tu viens gérer le pourquoi? C'est toi qui as fait la guerre. C'est toi qui gère les événements. Tu es à toi en même temps qu'ici. Lui, il est là-bas en même temps. Il est sur tout le chemin que tu vas prendre. Quand vous prenez le compte, vous prenez compte du fait que Dieu sait tout. Cela augmente votre sécurité, vous permet d'avancer plus vite. C'est pourquoi je vous donne des enseignements pour qu'ils soient pratiques. Je ne suis pas un théoricien, vraiment. Je vous enseigne quelque chose pour que elle ne soit pas lisse. Qu'on puisse toujours vous faire lire dedans. Et puis bon, vous avez le verset du jour pour aller lire. Quand vous comprenez les caractéristiques, les attributs de Dieu, vous avancez vite. Dieu sait tout. Il est omniscient. Vous pouvez le lire dans le psaume 139, le verset 1 à 6. Le psaume 147, le verset 5. 139, 1 à 6. 147, verset 5. Il connaît non seulement nos actions, mais aussi nos pensées. Quand vous prenez 1 Samuel 13, verset 7, vous avez une représentation qui est là dedans. Quel est le roi que David a remplacé? Saül, n'est-ce pas? Oui, Dieu dit à Samuel, va lui dire ce que j'ai dit, et ne se préoccupe pas de sa taille, je l'ai déjà révisé. Vous allez lire ce passage, vous allez voir. Mais il n'est pas là pour savoir, puisque Samuel était, il disait qu'un roi grand comme ça, barraché comme ça, un bel homme, moi je vais, il a compris là ce que Samuel a dit, pas lui. Ce que j'étais le manier, pas dit, ne te regarde pas ta taille que les grands, tout ça. Il y a une autre interprétation de ce passage qui veut dire en fait que Dieu ne se préoccupe pas de l'apparence des hommes. Ce n'est pas l'apparence qui fait quelqu'un, ni une femme, ni un homme. Dieu s'intéresse à toi-même, l'esprit, le cœur que tu as. Donc vous avez 1 Samuel 16, verset 7 qui en parle, 1 Roi 8, le verset 39. Et puis vous lisez le psaume 44, verset 22, vous allez voir aussi un élément qui vous permet de comprendre que Dieu connaît nos actions, nos pensées. Quand la Bible parle de la préscience de Dieu, elle fait référence au fait, vraiment il faut faire attention à cet enseignement, là c'est devenu, ça va devenir technique. Quand la Bible parle de la préscience de Dieu, elle fait référence au fait qu'il connaît tout ce qui est possible comme étant possible. Il connaît Dieu, tout ce qui est possible comme étant possible. Tout ce qui est certain comme étant certain. Tout ce qui est imprévu comme étant imprévu. Tout ce qui est futur comme étant futur. Tout ce qui est passé comme étant passé. Et tout ce qui est ordonné d'avance comme étant perpétu. Je relis cette séquence. Parce que l'expression préscience n'est pas connue. Même par les universitaires, il y a beaucoup d'universitaires qui ne comprennent pas ce que c'est que la préscience. S'ils entendent préscience, mais ils ne connaissent pas préscience. C'est pourquoi je définis ça comme ça. C'est une approche purement spirituelle de cette problématique. Quand on parle de la préscience de Dieu, elle fait référence au fait qu'il connaît tout ce qui est possible comme étant possible. Tout ce qui est certain comme étant certain. Tout ce qui est imprévu comme étant imprévu. Tout ce qui est futur comme étant futur. Et tout ce qui est passé comme étant passé. Tout ce qui est ordonné d'avance comme des certitudes prédestinées. Vous recevez des enseignements, donc c'est des choses vraiment techniques que vous recevez. Je vois, on vous a dit, quand on commençait les documents il y a 3 mois, on a dit que cette histoire que vous êtes toujours à boire de l'eau, le lait, là, non, vous allez commencer à croquer les macabos, la viande et même les tendons. Donc on y est. Vous devez avoir une appropriation technique à la profondeur de certaines choses. Quand vous lisez d'abord Ésaïe 42, est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe 42, le verset 9? Et acte 2, le verset 23. Ferme la son Bible. Ésaïe 42, verset 9. Acte 2, le verset 23. Celui qui peut lire, qu'il lit.
Ésaïe 42, verset 9. Voici les premières choses qui sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen.
Amen. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Parce qu'il a une connaissance ordonnée d'avance des choses de certitude prédestinées. Que dit acte 2, le verset 23.
Acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté de son appréciance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des esprits. Amen.
Amen. Jésus a été arrêté, a été tué selon la présence de Dieu. C'était prévu. Et ça, on est d'accord là-dessus. C'était prévu. Vous allez apprécier aussi 1 Samuel 23, le verset 10 à 13, et Jérémie 38, le verset 17 à 20. 1 Samuel 23, le verset 10 à 13, et Jérémie 38, le verset 17 à 20. La conception biblique de la préscience n'a rien à voir avec le déterminisme philosophique. C'est que les gens qui ont fait philosophie commencent à me regarder ici. Et je sais quoi, tout est prévu. Donc s'ils doivent aller en enfer, c'est déjà prévu. Oh. Si tu as été chez la femme du voisin, c'était prévu. La conception biblique de la préscience n'a rien à voir avec les déterministes philosophiques. Non, ce n'est pas ça. Dieu demeure libre de prendre des décisions qui altéreraient les desseins, ses desseins à la fois dans le temps, dans l'histoire, et selon sa volonté et sa sagesse. Autrement dit, Dieu n'est pas prisonnier de la pression, même s'il en est le cœur. Je vous ai lu deux passages tout à l'heure, 1 Samuel 23, le verset 10 à 13, et Jérémie 38, le verset 17 à 20. Est-ce que vous pouvez lire ça, s'il vous plaît? Quoi le micro? Appuie le bouton qui donne sur ça. Les techniciens sont. Oui. Oui, oui, Mathilde, en ce temps. Carole, tu vas préparer nombre 14, de 11 à 20. Oui, dis Mathilde.
Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Kéla ne vivront qui entre ses mains. Saül descendra qu'il, comme son serviteur l'a appris, Éternel, Dieu d'Israël, vienne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra, David. Il descendra. David dit encore, les habitants de Kéla le livreront-ils moi et mes gens entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils se livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Kéla et s'en allèrent où ils furent. Saül informé que Dieu s'était sauvé de Kéla, suspendit sa marche.
Que David s'était sauvé de Kéla. C'est quoi l'histoire? Il faut comprendre cette affaire. Tout va bien jusqu'à ce que Saül découvre que, un, Dieu l'a rejeté, Dieu il a choisi David. Saül a essayé de tuer David de plein de façons. A envoyé ce que vous appelez aujourd'hui le commando. Il a envoyé même des tueurs à gage. Une autre fois, il a essayé de le tuer lui-même. Or, David avait un comportement qui plaisait beaucoup à Dieu. En toute situation, quand il s'accalait là, il ne voit pas devant, il demande à Dieu. Dieu lui a démontré qu'il sait déjà ce que Saül va faire et comment le peuple où il est va se comporter. Alors, David a pris la décision qui permet de sauver sa vie et de sauver ses hommes. Dieu savait déjà que si Saül arrive, le peuple de Kéla va livrer David. David est parti de là où il était. Donc Dieu est au courant de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ce ministère dont nous sommes informés avant. Mais quand Dieu informe son enfant avant, c'est pour lui éviter les pièges et pour qu'avec lui il établisse les contre-mesures. Ce n'est pas pour que ça arrive fatalement, surtout quand c'est une mauvaise chose. Quand c'est une bonne chose, alors il faut sceller ça dans par le sceau de l'Esprit Saint, afin que cela s'accomplisse. Et il faut rester constant dans les efforts qui sont liés à la marche avec Dieu, à savoir la prière, le jeûne, la lecture de la parole, la persévérance dans la marche avec Dieu, la patience dans la marche avec Dieu, l'obéissance à la parole, la foi en Dieu et l'amour en Jésus-Christ. Donc, ce sont des piliers comme ça. On continue.
Nombre 14, verset 8.
Non, 11 à 20. Nombre 14, verset 11 à 20.
Nombre 14, verset 11 à 20, il est écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les produits que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuit se tient sur lui, que tu marches devant lui de jour dans une colonne de nuit et la nuit dans une colonne de feu.
Amen. Dieu avait prévu de toute façon l'exode, la libération du peuple captif et l'exode. Et tout se fait passer selon ses plans, selon ses voies. Si vous prenez deux rois, le verset 1, vous allez voir le même esprit. Troisième attribut de Dieu, Dieu est omnipotent. Ce qui signifie qu'il est tout puissant, qu'il détient l'autorité suprême sur toutes choses et sur toutes créatures. Je vous ai donné un exemple lointain. Les gens ont dit Amen. Je vais donner un exemple récent que tout le monde a suivi ici. L'omnipotence est aussi divisible sur des choses élémentaires. Une dame a témoigné ici dimanche dernier, qui a deux dimanches, dimanche qui est passé, elle est venue ici après avoir fait des examens qui démontraient que le bébé est en mauvaise position dans le ventre. L'un de mes fils spirituels ici me signale qu'il y a une femme qui est inquiète parce que son bébé est en mauvaise position. Pendant que je fais la prière, je demande à l'Esprit Saint de remettre ce bébé dans la bonne position. La femme voit tant l'enfant qui se retourne. Une rotation de 180 degrés. La femme reprend sa position dans le ventre. Elle a témoigné, je pense qu'au moins 200 personnes ont entendu ce témoignage. Ça fait partie de l'omnipotence. Dieu peut tout faire. Tu as un connaissant de Dieu pour dire que un bébé qui est renversé dans le ventre, le cas, c'est pas dans la capacité de Dieu. Là, ça ne le passe. Puisque moi, je ne veux pas toucher le bébé avec le doigt, donc Dieu aussi ne peut pas retourner le bébé là. C'est comme il y a un père ici, moi je le sais, je le vois un peu. Celui qui est venu, il faut être réveillé. Je lui ai dit de lâcher ses béquilles, il me regardait les yeux et je disais que le père, c'était le piège ou quoi. Si je lâche ses béquilles, il allait tomber. Et pour lui faciliter la tâche, comme moi je sais que le Dieu que je sers peut tout faire. Dès qu'il fait les béquilles devant moi, je lui ai dit, lâche ses béquilles. Il me regarde comme ça, il dit que bon, tu as mal de quel pied. Il dit le pied droit, il dit, puis le pied là. Il se rend compte que le pied fonctionne déjà bien. Il attendait à ce que je fasse peut-être une danse indienne d'abord, que je prie fort, etc. Il vient souvent d'oublier le pied. Il se rend compte que le pied là est guéri. Et c'est là où il soulève le pied. Et comme sa foi était petite comme ça, après 4 fois, il va encore s'appuyer dessus. Quand vous vivez avec la conscience de l'omnipotence de Dieu, et si vous avez la grâce d'avoir la foi, les anglophones disent quoi? On stoppe le bruit. Vous devenez instoppable. Quand tu as pris conscience de ce que ton Père est tout-puissant, que le Dieu que tu sais est tout-puissant, et que tu combines à ça la foi, et à la base de l'intérêt quotidien pour la marche avec Dieu. Mais il n'a pas de limite. Il peut tout faire. Tout. Vous voyez souvent, les femmes et les ici dehors, vous commencez à vous poser des questions, que le gars là est normal, comment il peut parler comme ça? Laisse parler comme ça à la télé parce que je compte sur mon Père. Quand je me mets à la télévision, je fais un magie comme ça. Et je dis que je suis mieux gardé que n'importe quel chef d'État sur terre. Un. De deux, tous les grands secteurs réunis, s'ils veulent se réunir, c'est sur un an. Ils disent qu'ils vont tuer le gars là. Ils ne pourront même pas s'approcher. Et comme les gens sont stupides, incrédules, beaucoup de sorciers sont morts les semaines qui suivaient. Ils venaient essayer pour voir. Vous venez essayer quoi? Mon Père est tout puissant. Vous voyez où on est dans la parole, 4 gratuites. J'ai parlé, l'émission a été rediffusée au moins 10 fois. Et j'étais tranquille, ce n'est pas que j'avouais en disant que les choses qu'ils font là. C'est un sujet que ça a été regardé des milliers de fois. Les choses qu'ils font là, commençant par le collaborateur du président qui voulait m'assassiner parce que j'avais découvert qu'il détournait l'argent des milliards par mois. Je parle, je suis l'annonce. On va me faire quoi? Je me balade dans ce... Je continue à aller à la télé. Mais c'est parce que j'ai conscience de l'omnipotence de mon Père. Je vous donne un secret. Mais il faut que je vous donne le secret là. Quand j'étais plus jeune, comme envoyé, j'avais beaucoup regardé les dispositifs de sécurité, les anciens d'aveuglement, les anciens de paralysie, c'est-à-dire que les systèmes qu'il a installés autour de moi, c'est que si quelqu'un vient à une mauvaise chose, ça le fera. J'aimais regarder ça. J'aimais voir tous les gens qui sont responsables de la sécurité, les chérubins, tout ça. Quand il a vu que ça commence à absorber mon intérêt, il m'a dit une phrase, c'est parce qu'il me regarde plus ça. Il m'a dit, ta sécurité me concerne. Ça, c'est un grand secret. Vous savez, quand je suis souvent à certains hommes de Dieu, ils ne comprennent pas pourquoi ils font le sang-fou carrément. Quand ils vont commencer à bagarre, ils commencent à bagarre, ils n'ont pas à réfléchir que l'autre est comment, quelle taille, je m'en fous. Peu importe la taille de la vêtement, ils commencent à bagarre, ils commencent à bagarre. Vous êtes nombreux, ça vous regarde. Ce n'est pas mon appel. C'est ce que mon père m'a dit que ma sécurité le concerne. Donc je ne sais pas savoir si vous êtes 1000 sectaires en face, 10 000, 1 million, sur comment ça va arriver selon le nom puissant de Jésus-Christ. Allumez plus tard. Parce qu'ils sont souvent là, ils sont dans une secte. On est castan, tu ne peux pas. Ah bon, seulement castan. Dites au revoir, faites-le secrétairement, parce que moi j'ai un projet, vous tuez deux mois-ci. Quand on a conscience de l'omnipotence de Dieu, on n'a pas la peur au ventre, on n'a pas l'inquiétude. Quand on est inquiet, c'est qu'on n'a pas compris que le Dieu qu'on sert est omnipotent. Quand on est inquiet, c'est qu'on n'a pas compris que le Dieu qu'on sert est tout puissant.
Parce que chaque fois, on est là en train de demander que vous les gens allons faire comment. Vraiment.
Prévoyez le lendemain, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Vous voyez la différence entre les deux. Si vous avez compris que le Dieu que vous servez est un Dieu omnipotent, et si vous avez compris qu'il faut lui faire conscient, parce qu'il est fidèle, parce que vraiment il est avec vous, vous n'allez pas arrêter de dire, je fais comment,
c'est compliqué, c'est comme ça.
Et ça, c'est le diable qui commence à te parler comme ça. Parce que le diable est là pour attirer ton attention sur ce que tu n'as pas. Et te faire croire que de toute façon, tu ne veux pas. Alors que tu as acquis en tant que prince, en tant que princesse, et tu jouis, et c'est ça, tu jouis du patrimoine de ton père. C'est un genre de prince et de princesse qui est foiré. Vous ne pouvez pas t'en faire. On nous a dit ici qu'un prince, une princesse n'emprunte pas. Si tu ne connais pas, tu ne vas pas comprendre ça par emprunter. Dieu va donner. On a besoin d'aller s'endetter. C'est quand on ne connaît pas Dieu qu'on s'endette. Tu mets tes genoux au sol. Tu pries bien, c'est-à-dire que tu sens que oui. Là, j'ai convaincu papa. Tu te lâches, tu dors paisiblement. Que dit le psaume 127? N'est-ce pas qu'il dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil? Et on dit qu'il est omnipotent, toi tu n'as qu'à rien compris. Ne stresse plus jamais. Dis au voisin que voisin ne stresse plus jamais. S'il n'a pas compris, voisin, ne sois plus inquiet. Voilà. Vous voyez l'étendue de la pratique de l'omnipotence. Qu'est-ce que ça veut? Je me rappelle, quand j'étais encore jeune envoyé, permettez l'expression parce qu'il n'arrive pas à trouver d'autre phrase. Bon, il y a jeune envoyé, il y a adolescent envoyé et vieux envoyé, non. Donc, je donnais un séminaire à la salle des fêtes d'Aqua. Un papa, que je n'ai plus jamais revu, à la fin du séminaire, dit que mon fils est dans une secte qu'il a embrigadée. Vraiment, je ne sais pas, je suis perdu. Avec toutes les démonstrations, vous avez faites là. Ah, ça, tu te rappelles. Tu étais là, ça fait 2 ans. J'ai dit à ce monsieur, là-bas, je ne prends pas les larmes, je compte sur mon père, que c'est moi qui fais. J'ai dit que monsieur, ton enfant va revenir dans ta maison. Ça n'a pas fait 3 semaines, ce monsieur m'a appelé pour me dire que ce que vous avez dit s'est accompli, mon fils est revenu dans la maison. Je n'ai pas dit que, bon, j'ai fait une prière que c'est à ce notre père, le mec, quoi. Après, on va encore faire le nouveau, vous savez, Marie. Et il s'est déclaré. Parce que je sais que le Dieu que je sais est omnipotent. J'ai vu une langue grossesse ici il y a 3 semaines. Mais j'ai une langue grossesse. L'autre femme qui a fait le témoignage d'abord, c'était une langue grossesse. Et effectivement, vous avez vu l'omnipotence de Dieu. Vous, les médecins, ne pouvaient plus avoir d'enfants dans ce ventre. Les mieux avaient pris une taille extraordinaire. Là, voilà, en teinte jusqu'aux yeux. Donc, j'ai eu une grossesse ici il y a 3 semaines. L'homme est venu avec sa femme, je n'ai pas fait attention, mais de toute façon, quand moi je parle, je sais que quand je suis mon père, j'ai pas besoin de retenir ça dans ma tête. Le monsieur me dit, quand j'ai acheté les enfants depuis 6 ans, j'ai dit que mais, ma fille, qui est en train de compter le mois, elle dit que c'est un peu plus de 3 mois. 3 mois, le ventre est long comme ça. Le monsieur prend la parole en disant, t'as envoyé, on a acheté l'enfant, on est venu ici, c'est la grossesse que vous avez déclarée, la voilà ça. J'ai dit que oui, mais ce n'est pas la réponse à ma question. Pourquoi le ventre est gros comme ça à 3 mois? J'ai dit que vous aviez dit le jour là que c'était les jumeaux, non? Donc il y a les jumeaux dedans. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment une grossesse de 3 mois longue comme un père. Le mariage était court. Vous allez déclarer là devant tout le monde que ce sera les jumeaux. C'est les jumeaux qui a des enfants. Pourquoi le ventre est long comme ça? Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment il s'appelle. Quand vous avez conscience de l'omnipotence de Dieu, vous avez la foi. Vraiment, on sort de vous. Vous devenez un sauveur. Je vous donne les clés parce que c'est mon travail. Et en vérité, qui est en train de vous parler? Donc, pour que vous compreniez cela par rapport à la parole, vous allez lire le psaume 147, le verset 13 à 18. Psaume 147, le verset 13 à 18. Jérémie 32, le verset 17. Psaume 147, le verset 13 à 18. Jérémie 32, le verset 17. Nous avons aussi Matthieu 19, le verset 26. Luc 1, le verset 37. Ceci ne veut pas dire que pour autant, Dieu utilise toute sa puissance et toute son autorité en permanence. C'est pour vous, ne c'est pas pour lui maintenant. Par exemple, Dieu a le pouvoir de détruire le péché, mais il ne le fait pas pour l'instant, il attend la fin de l'histoire. Tel que c'est prescrit dans 1 Jean 5, le verset 19. Dans de nombreux cas, Dieu limite son pouvoir, car il désire agir à travers son peuple. Je vous ai dit ça la dernière fois. Attendez, je vous relis les passages, certains n'ont pas noté. J'ai dit qu'il faudra prendre le psaume 147, le verset 13 à 18. Jérémie 32, le verset 17. J'ai aussi dit que Matthieu 19, 26 et Luc 1, 37, c'est sur l'omnipotence de Dieu. Je vous ai dit ici dimanche dernier que Dieu désire agir à travers son peuple. Vous allez comprendre cela dans 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Et en telle circonstance, sa puissance dépend de notre disponibilité et de notre soumission à sa volonté. Je vous ai dit ici que vous êtes en train d'être évalués. Les dons vont descendre en fonction du mérite de chacun. C'est-à-dire que quoi? Il y a déjà l'intentionnalité première, Dieu veut donner. Maintenant, il faut mériter. C'est-à-dire que c'est un processus qu'on a déjà vécu dans ce ministère, c'est pas qu'ailleurs. Que les grâces descendent. La grâce trouve quelqu'un qui n'est pas en position de réception et se déplace vers quelqu'un. Comme lui, soit. L'une des images que le Seigneur a montré dimanche dernier, et quelqu'un a dit, mais tu vois en position de réception, il montre que vous êtes en train de recevoir spirituellement et matériellement. Ce qu'il a montré, lui, ce qu'il a montré à l'une des personnes qui est ici, c'était quatre. C'est comme si quelqu'un a trouvé quatre. Mais en fait, il voulait montrer que les mêmes spirituels sont en position de réception et les mêmes matériels sont en position de réception. Donc, ce n'est pas un Dieu qui a dit, mais Dieu prend en position de réception, ça se passe en temps réel. Il y a quelqu'un qui dit, levez-vous pour recevoir les grâces. Le diable leur dit, Dora, sois-toi. Il te lève pour quoi? Et il écoute la petite voix-là qui vient de l'autre camp. Ça fait que la grâce descend, ça t'arrête. Et quand les hommes sont trop fous, qui n'est pas les hommes pour recevoir les grâces? Ce sont les gourous et les saints qui en profitent. Vous voyez pas souvent quand c'est certains gourous et saints sont heureux de façon excessive. Parfois ils se retrouvent avec les grâces des hommes. les grâces sont tellement emballées qu'elles ont attrapé de la poussière, ils ont retrouvé tous les animaux. Donc, il faut toujours prendre conscience de ça. La disponibilité. Concernant la dimension de la disponibilité de notre volonté, vous lisez Éphésiens 3, le verset 20. Dieu est transcendant, ce qui signifie qu'il est différent et indépendant de sa création. Il est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre que Dieu est indépendant de sa création. C'est-à-dire qu'au-delà de cette création, il a d'abord existé. Il existe vrai à travers cette création, mais au-delà, avant, pendant comme après. Il est hors du temps. Il est hors de l'espace. Parce que je sais que d'abord, avant que vous ayez des versets qui permettent de vous approprier de cela. Il y en a qui veulent entrer en duel avec Dieu. Tu entres en duel avec qui? Donc, le pot, qu'on appelle Adagi, va discuter et débattre, essayer de lutter avec ton fabricant. Tu es le pot. Vraiment le pot. Si on a prévu que c'est les fleurs que tu dois porter, porter les fleurs, et c'est quoi? Non, vraiment, je vous donne la voix, c'est porter les fleurs et c'est quoi? Tu vas pas organiser, tu vas pas. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu voulais prendre de l'autre taille? Hein? Pourquoi j'ai la taille ici? Pourquoi je suis trop grand? Pourquoi je suis pas assez épais? Et pourquoi? C'est quoi? Occupe ta place. Et il faut bien que quelqu'un vous dise ça. Dieu n'est pas à ce niveau-là. Il nous a brisé le pot là et grâce à sa deuxième poussière, on oublie que le pot là est resté. Les gens s'amusent avec la vie, ils ne comprennent pas la relation avec Dieu. Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Il est largement au-delà de ce que l'on peut mesurer, comprendre, concevoir, accepter, imaginer. Un jour, il m'a expliqué que même, les hommes, la manière dont j'ai fabriqué un homme, il y a un certain niveau d'information que je ne peux pas mettre chez l'homme. Son système ne veut pas rompre. L'homme a des limites qui sont dues à sa taille. Il fallait bien les proportions entre taille mentale, taille spirituelle, taille physique. C'est une très haute ingénierie dont on ignore jusqu'à l'existence. Bon. Par rapport aux fonctions que nous avons, au travail que nous avons à faire, on a été conçu d'une certaine façon. Et les gens veulent discuter avec Dieu sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Si un jour Dieu vient te dire que mon fils, je veux que tu puisses te manger coucher à la vanne, tout au fil. Tu comprends? Oh, T'as rien compris, là, ce crâne là c'est quoi? C'est de lui qui adore un père, c'est vous. Obéis. C'est lui qui t'a fabriqué, il est au-delà du temps, il a des choses qu'il a à te donner. Dieu ne peut pas te donner une instruction si ce n'est pas à ton avantage. Que ça te plaise ou pas. Tu vas mesurer quoi? Non, il faut que j'explique les choses comme ça. Sinon, les gens vont croire qu'on est ici dans les débats publics philosophiques ou je ne sais pas quoi. Non. Tout. Il n'y a que les ignorants pour vous dire ça. Moi, je vous dis, tout ce qui est dans la Bible est divin. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu est divin. Sa parole est divine parce que cette parole-là, c'est lui. Si vous ne voyez pas la vie de la parole, vous-même, vous n'avez pas de vie. Si vous ne voyez pas la vie de la parole, vous ne recevez pas Dieu. Or, cette parole doit se remplir en vous. Plus vous êtes rempli de Dieu, plus vous ressemblez à Christ, et plus vous ressemblez à Christ, plus les ténèbres s'éloignent de tous les compartiments de votre vie. Il faut comprendre que quand on a affaire à Dieu, on a un seul acte de sécurité, c'est l'obéissance. Il faut obéir. Il y en a qui viennent souvent parler des choses de Dieu, ils ne connaissent pas le contenu. Mais moi, je suis le berger ici, et j'ai été établi pour un mandat planétaire. Je fais beaucoup plus de choses que l'on peut l'imaginer. Et parmi les mandats que j'ai reçus, il y a celui de former les hommes de Dieu d'abord eux-mêmes. C'est pourquoi je suis l'envoyé, c'est pourquoi j'ai ce rang. Et c'est pourquoi, malgré tout ce que vous trouvez que l'Esprit Saint fait à travers moi, que c'est exceptionnel, je puis vous dire, pour que vous compreniez l'immensité de ce que Dieu est capable de faire, pas seulement en omniprésence, pas seulement en omnipotence, pas seulement en omniscience, mais à travers cette transcendance-là, qu'on est seulement aux échauffements. Tu ne dis pas Amen. On n'a même encore rien fait. On fera l'inimaginable, l'impensable, l'inconcevable, même pour les pratiquer. Ils vont arriver à un stade, ils vont dire que c'est là qu'il nous fait pleurer, ce n'est pas normal. Je ne peux pas utiliser quelqu'un comme ça. Ces gens-là, ils envoient un pacte spécial. Il faut comprendre que s'il y a un souci que vous devez avoir, c'est même le seul et le bon souci. C'est de vous préoccuper tous les jours de savoir est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi afin que ma part soit remplie chaque jour. Parce que je ne sais pas où il a commencé. Je ne sais pas où il finit. Je ne sais pas comment il est fait. Je dois jouer ma petite partition pour que moi aussi ma part d'héritage j'ai ça. Mais il y a des gens qui jouent leur petite partition, ils veulent convaincre Dieu de faire le contraire de ce que lui l'a prévu. Et il peut tomber comme ça, justement, il y a des choses ici dans ce ministère. J'appuie seulement de la partie qui peut afficher le reste d'avoir la salive. Eh bien, je tombe sur toi, c'est toi seulement que je veux. Est-ce que tu as prévu ça? Il est tellement de clos. Ouais! Ma fille, dans le plan de sagesse immense de Dieu, ce n'est pas ton mari, là. Elle dit que non, je ne peux pas laisser. Là, je ne peux pas laisser. C'est Dieu qui s'est trompé, il s'est trompé. Quelqu'un qui est au-delà du temps, de l'espace, il s'est trompé sur son cas. C'est un maître, je vais continuer. Un cas là, je veux seulement aider. Aider ou rien. D'ailleurs, je vais vous déduire là, il va me sentir. Ah, c'est Dieu qui va se sentir. Laisse tu prends pour toi, nous l'avez trouvé, les gens, en train de faire un jour, comme un enfant a dit un jour, qu'un jour on a défilé pendant deux jours. Je voulais dire la même chose, qu'un jour l'avez tu prends les gens en train de jeûner, 7 jours à 7, objectif, avoir l'envoyé. C'est lui qui fait ce moment-là. C'est dans le plan de Dieu, donc laisse comme ça, c'est comment être aussi. Je vais jeûner 7 jours, si Dieu veut, je meurs une fois. À 7, je ne vois rien, je ne mange rien. Quelqu'un qui est là, à travers le fond de l'âge du temps, de l'espace, essaie d'entrer dans le plan, parce que si c'est mon corps, ça va commencer, si c'est pas l'immensité de la terre, si c'est pas le gigantisme de la terre, le méga gigantisme de la terre, si c'est même pas de quoi il s'agit finalement. Occupe ta petite place, si tu peux toi mettre la pression à Dieu. Vous voyez les vitres qui assurent au parleur dire. Imaginez que vous soyez juste une vitre. Quelle vitre dérange, on la remplace, non? Je vous dis la vérité, comme vous êtes là. Que tout ça c'est le haut-parleur. Ton rôle sur le haut-parleur c'est une vitre. C'est que tu déranges. On enlève ça, on jette. Et on remplace. J'ai dit ça, je ne sais pas comment raconter. J'ai la crainte de Dieu parce que j'ai vu Dieu faire des choses que j'ai souvent peur de raconter. On ne sait pas le bras de faire avec Dieu. C'est de la folie. Je connais le Zamzam, je connais quand même les limites. Quand vous avez compris que le Père éternel est au-delà du temps et de l'espace, mon ami, tu deviens sage. Très, très sage. Parce que c'est très compliqué dans le fond. Tu ne sais pas où il a commencé. Quelqu'un qui te dit que, avant qu'on t'ait conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais, quand tu sens que tu vas commencer à être un lit. Je remercie abondamment le Saint-Esprit parce qu'il m'a orienté l'enseignement sur l'angle que je ne pouvais pas imaginer. Tout ce qu'on a fait là, c'est la pratique. Je ne savais pas que comme ça que l'enseignement allait évoluer. C'est lui-même alors qui vous montrer la pratique de la parole.
Amen.
Je fais souvent rire mes fils spirituels à l'air disant que moi aussi je m'en vais suivre l'enseignement. Et ils me regardent comme ça comme le papa, c'est toi qui en train de dire que c'est pas moi. Je vais aussi suivre l'enseignement. Moi je n'ai pas à vous cacher des choses. Vous avez déjà dit qu'il y a des fois où je fais des démonstrations pendant 45 minutes. Je n'ai jamais rien appris de ce que moi je suis en train d'expliquer. Est-ce que c'est alors moi qui parle? Moi, je suis l'enseignement. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je dois seulement jouer ma partition à mon petit niveau. Je suis un instrument d'enseignement. J'accepte ma place d'instrument d'enseignement. Je recule. Je vais commencer à discuter avec lui. Non, je ne veux pas que tu dis ça. C'est pas ce qui m'arrange. Tu l'enseignes de qui? C'est l'enseignement de qui? Si je dis qu'enlève le serpent qui a le ventre de la femme, là, tu commences à dire que moi je ne veux pas enlever le serpent là. Qui fait les délivrances? C'est toi ou bien c'est Dieu? Je vous prie bien, parce que comme les hommes vont descendre ces serpents-là, l'orgueil peut bondir comme ça dans l'air, et ils oublient l'enseignement qui est venu. Et on voit ça, dit, je suis puissant, hein, je suis puissant. Parce que si tu as eu mal au ventre, tu m'as gagné comme ça, après, mal au ventre, c'est fini. Le mal va être je suis puissant, Dieu. Lorsque la mort, ferme ça. Donc, vraiment, si vous voulez avoir les références bibliques par rapport à l'omnis, la transcendance de Dieu, prenez Exode 24, le verset 9 à 18. Exode 24, le verset 9 à 18. Ésaïe 6, le verset 1 à 3. Ésaïe 40, le verset 12 à 26. Exode 24, le verset 9 à 10 à 18. Ésaïe 6, verset 1 à 3. Ésaïe 40, verset 12 à 26. Donc, je vous dis ceci. Son être, l'être de Dieu, son existence qui passe de loin toute création. Et ceci est encore vrai dans 1 roi 8, le verset 27. 1 roi 8, le verset 27. Ésaïe 66, le verset 1 à 2. 1 roi 8, le verset 27. Ésaïe 66, le verset 1 à 2. Acte 17, le verset 24 à 27, 25. 1 roi 8, le verset 27. Ésaïe 66, le verset 1 à 2. Acte 17, le verset 24 à 25. Il demeure pur et parfait. c'est-à-dire bien au-delà de tout ce qu'il a créé, qu'il existe en dehors de la création. Un autre passage que je peux vous donner dans ce sens, 1 Timothée 1, le verset 16. La transcendance n'implique pas cependant que Dieu est incapable de vivre au milieu de son peuple et d'être son Dieu. On a plusieurs passages où Dieu déclare qu'il va vivre au milieu de son peuple. Vous voyez les Israélites? Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. On n'a pas le temps, pour ça vous donner les références, attendez que vous êtes obligé de passer vos examens en allant lire la parole. Lévitique 26, le verset 11 à 12 parle de cela. Lévitique 26, le verset 11 à 12. Ézéchiel 37, le verset 27. C'est dit dans la parole, à ce niveau-là. J'habiterai au milieu de vous, je marcherai avec vous. Ézéchiel 37, le verset 27. Ézéchiel 43, le verset 7. 2 Corinthiens 6, le verset 16. Autre attribut de Dieu. J'ai dit pour ceux qui ont du mal à se retrouver, Lévitique 26, de 11 à 12. Ézéchiel 37, verset 27. Ézéchiel 43, verset 7. 2 Corinthiens 6, verset 16. Autre caractéristique, autre attribut de Dieu. Dieu est éternel. Ce qui signifie qu'il existe d'éternité en éternité. Bon, de toute façon, les gens sont censés savoir ça. Et ils le savent de toute façon, même quand ils sont de mauvaise foi. Dieu est éternel. Il existe d'éternité en éternité. Le psaume 90, verset 1 à 2 le dit. Le psaume 90, verset 1 à 2 le dit. Le psaume 102, le verset 13 le dit. Je vais faire deux passages. Il n'y a jamais eu de temps, de moment, passé ou futur, où Dieu n'ait existé. Vous savez, la même de ces passages qui vous est donné, où Dieu dit clairement que 1000 ans ressemble à. Vous connaissez. Il n'y a jamais eu de temps ou de moment, passé ou futur, où Dieu n'a existé. Il n'est pas limité par le temps et par l'espace, comme l'homme. Vous prenez toujours le psaume 90, verset 4, et 2 Pierre 3, le verset 8, le dit aussi. Il est donc décrit comme étant « Je suis ». Mais là, je tiens à ce qu'on le dit. Je suis. Vous allez souvent avoir ce genre de question. Le diable, malgré toutes ses défis, toutes ses sottises, sa tricherie, la falsification, ne peut pas utiliser ça. Si tu demandes au diable de se présenter, il ne dira jamais « Je suis ». Je suis sûr que c'est du Saïme. Ça, il ne peut même pas essayer. Donc, il y a une limite. C'est comme je vous ai déjà expliqué que quand vous entendez une voix qui vous parle dans la poitrine, c'est Dieu. Dieu fait réserver le cœur de l'homme. Aucun autre esprit ne peut parler dans le cœur de l'homme. Et je vous ai déjà dit que si vous entendez une voix qui parle aux oreilles, ce n'est pas Dieu. Dieu ne parle pas aux oreilles de l'homme. C'est dans la pratique. Lisons ces deux passages. Parce que quand on arrive là, je m'arrête d'abord, je veux entendre comment mon père a parlé à l'endroit là. Dis au voisin que Dieu c'est mon père. Il n'a pas bien entendu, dis-lui encore. Voilà. Quand vous parlez de Dieu, vous devez parler de Dieu avec appropriation, confort, aisance, légitimité. Si ce n'est pas ton père, c'est le père de qui? Lisons Exode 3, le verset 14, et lisons Jean 8, le verset 58. Qu'est-ce qu'il écrit dans Exode 3, le verset 14?
Exode 3, verset 14. Il est écrit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle
Je suis,
m'a envoyé vers vous.
Amen. Difficile d'imiter celui-là. Inimitable. Vous avez entendu ça dans l'histoire que quelqu'un dit je suis. Tu t'appelles comment? Je suis. Comment je dois t'appeler? Je suis. Je suis celui qui suis. Dis au peuple que je suis. Et celui qui s'appelle Jésus est présent ici ce soir.
Amen.
Donc, on n'est pas capable de traduire sa présence. Mais, il faut beaucoup prier. Parce que vous êtes quand même comme ça. Non, ok. Il y a un homme qui est entré un jour. Ouais, le pont que vous traversez là, non, c'est pour moi. Et si dans le pays, il est saisi, il dit que, il va faire la concession ici. Et là, il n'a pas le métier. Dès qu'il a traversé ce moment, c'est que, et tout ça, il a chargé, le culte n'a pas commencé. Tout est là à charger. C'est des choses simples. Quand vous êtes à un certain niveau de sensibilité, vous sentez. Vous pensez que je suis arrivé chez une TSM. En fait, un jour le Seigneur a dit à une fille qui était ici, si vous croyez que l'homme que j'utilise en ce lieu est vraiment mon envoyé, beaucoup de gens peuvent guérir juste parce qu'ils ont mis les pieds dans cette terre, parce que c'est une TSM. Il est là. Je vous fais une autre confidence. Parce que vraiment, moi, je suis là pour ça. Je suis content de savoir qu'il y a des gens pour recevoir les choses les plus pures, les plus profondes, les plus cachées. Un jour, on traînait à lancer le culte. Ça fait peut-être 10 mois ou 9 mois. C'est quelque chose à faire. Le frère est descendu. Il dit que c'est quoi mon fils? On s'ennuie. J'oublie. Nous sommes déjà là, on s'ennuie, lance le culte. Il y a des choses que vous devez dire, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi je vous dis souvent que ne soyez pas en retard. On fait la comptabilité sur vous. Ne soyez pas en retard. Le père, regarde-le. Regarde. Moi, je suis là, il vient après moi. Et je vous ai dit que quand vous traitez avec le père, vous sentez le comportement différent du tien et différent de l'esprit. Le père a vraiment cette... Non, le côté royal est très, très fort. C'est lui qui rappelle en permanence que tu dois respecter le roi. Donc il est doux, tout ça. Décale seulement un peu, tu vas le trouver. Attends, c'est la même qui me répond. Je suis devant un homme d'asseoir, et il a toujours dit, il ne peut pas faire comme ça. Hein? C'est le genre de cahier où tu écris mes choses. Mais toi, c'est quelqu'un d'entre vous me rappelle l'œil de toi. Je ris dans mon cœur parce que ça va faire comme moi j'ai vécu. Tu vas voir où moi je suis passé. Comment dire? Donc quand tu veux parler là, c'est comme ça que tu t'as dit. Toi aussi. Donc, quand tu vas te mettre devant le roi, c'est comme ça que tu t'as dit. Tant que vous n'arrivez pas à une relation personnelle, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Combien les petits détails font de grandes différences. Et je vous assure que votre chrétienté va s'améliorer à partir du moment où vous allez prendre conscience du fait que Dieu est en permanence présent. Ça va vous aider. Vous allez essayer de faire n'importe quoi. Même quand il y a eu ça, vous allez dire que bon, mon frère à côté ne va pas traverser cette chaîne. Qui va avoir conscience de la permanente présence de Dieu. Ça va vous aider. Et ça va vous aider même à combattre le péché. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 8, 58? Parce qu'il a donné Exode 8, 14. Mais il y a Jean 8, 58.
Jean 8, 58, il est écrit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen.
J'aime ce passage. Ah oui, je dis, j'aime ce passage. Sanctuer désormais tous ceux qui disent, j'adore. Il n'y a que Dieu qu'on adore. Le satanisme a fait qu'ils ont perforé tout, perturbé tout, déformé tout, perverti tout. J'adore ce passage. J'adore la voix de vie parfaite. J'adore la fille. J'adore les béhèmes à sabot. J'adore la haricot. J'adore le poisson. Donc, toutes ces choses sont devenues des dieux. J'adore Orange. J'adore MTN, j'adore le taxi, j'adore la vie. C'est de la folie. Il y a un seul qui doit être adoré, c'est Dieu. Revenons au passage. Si Jésus-Christ dit que avant Abraham, je suis, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu. Et je vous l'ai dit ça ici, c'est un enseignement révélé. C'est le nom que Dieu s'est donné pour venir racheter l'homme.
Applaudissons d'abord pour le Seigneur.
Jésus-Christ est le nom que Dieu s'est donné pour que la parole devienne chair et qu'elle habite parmi nous, afin que cette parole, qui est Jésus-Christ, soit pour nous, après avoir été racheté, le chemin, la vérité, la vie, qu'elle soit pour nous la lumière du monde. Je suis heureux quand vous m'avez illuminé comme ça. Je vois même le Père sourire. Tant que tu n'as pas compris que Jésus-Christ est Dieu, tant que tu n'as pas décodé Jean 1, et même Jean 1, 14, il y a des passages, tu ne comprends pas, pourquoi c'est lui le chemin, pourquoi c'est lui qui faut suivre, tu comprends pourquoi il est devant et on le suit. Nous sommes les poursuivants de Jésus-Christ. Eh, non, les êtres les poursuivants de Jésus-Christ, tu le fais le doubler, que tu vas aller plus vite que lui. Tu vas au rythme que le mérite, dans la compréhension que tu as, de la marche avec Dieu, te permet d'avoir. Une femme est venue me voir son mari au bureau l'autre jour. Ils viennent toujours. Ils ne viennent pas ici. Parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de venir ici. La femme a un enfant qui a 22 ans. Et depuis 22 ans, même les fausses couchées n'ont pas eu. Quand elle est venue me voir, c'est une femme qui a vraiment de l'expérience, elle a travaillé les Nations Unies, etc. C'est une dame, quoi. Le diable t'a bien assis dans ta vie, il a fait comme je vous ai dit que les charançons tombent dans le bois. Elle dit quand tu passes à tout pays, mais tu es en train d'être rongé dedans. Jusqu'à ce qu'elle soit anéantie, elle se retrouve à travailler dans un petit ministère, etc. Et puis les choses se sont gâtées, elle avait un mal de tête chronique, etc. Elle ne pouvait plus lire une personne qui aime la lecture, tout ça. Moi, j'ai mes habitudes, puisque de toute façon, je suis un instrument de Dieu. Le premier jour où je vois cette femme, pendant qu'on est en train de faire sa délivrance, je lui dis premièrement, le mal de tête là, c'est fini. Deuxièmement, tu vas dormir normalement. Troisième chose, ton mari a des enfants qui ne sont pas de toi. Tu as un enfant qui n'est pas de ton mari. Tu as besoin d'un enfant à deux, n'est-ce pas? Et lui, je dis en 2017, tu auras un enfant. Comme elle est loin de comprendre la chose spirituelle, elle dit, ah, merci. C'est la réponse sur une déclaration de l'amour du Créateur et du changement de ta vie. Après ça, elle vient avec sa fille qui est pratiquement en train de finir les études de médecine. Or, sa fille, comme je le fais avec beaucoup de gens à distance, avant de la rencontrer, juste pour lui montrer quelque chose, c'est quelqu'un de cartésien. Ils sont en train d'envoyer ce cartésien, ça, parce que moi je suis un intellectuel, je suis un scientifique. Je lui demande de sortir de l'eau, je vais la bénir. Je bénis son eau, quand elle boit l'eau, tout son corps chauffe. C'est des mois après qu'elle dit qu'elle a été saisie par une chose qu'elle n'avait pas à comprendre. Comment c'est que l'eau que j'avais bénie en fait sortait du frigo? Comment l'eau que j'ai sortie du frigo chauffe? Mais quand je l'écoute à distance, que ça m'explique qu'elle est possédée. Et je ne peux pas lui dire, une personne rationnelle qu'elle est possédée, j'attends qu'elle arrive en face, elle va commencer la bagarre. C'est justement à ta mère qu'il faut qu'elle arrive. Je la réveille dans le bureau, elle reçoit gentiment, dès qu'elle commence à prier, comme ce qui s'est passé hier encore, elle s'est... Le truc a un dégaine en une fraction de seconde. Elle se passe très vite. Pamam! Le serpent qui l'a possédé prend la parole. Et si là, il y a plus de 5 ans, je lui ai tout précisé, je ne sais pas qu'il y a des trucs qui ont été récits, il dit oui, sors maintenant, il ramasse ou pas. Sa mère pleurait, n'avait jamais vu un cas de possession, premier cas de possession de sa propre fille. Elle avait sa fille se tortiller comme un serpent, elle n'en revenait pas. Et sa fille avoir une voix d'un mal, elle ne comprenait pas. Mais je suis en train de passer ce moment par là. Alors, tandis que cette femme est en train de vivre toutes les étapes, ils vivent plusieurs petits miracles, mais sans leur suffit pas. Moi, ils me prennent quand même bien au sérieux, mais sans leur suffit pas. Pour que cette femme se rende compte
de ce que Dieu
a quelque chose de spécial pour elle, il faut qu'elle soit dans la négligence et que un lion la fasse encore. Le lion l'a attaqué. Elle a fait 2 jours sans dormir. 3e jour, elle s'en allait et elle se sont pointées. J'ai fait l'enseignement, si tout le monde a compris qu'il fallait l'enseigner. Elle est guérie. Mais à cause de ce que elle est tombée malade, c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle enseigne après 22 ans. J'ai des cas comme ça, je regarde souvent les gens, je me pose des questions et je me dis n'importe comment, il faut que Dieu fasse encore des millions de fois ce qu'il est en train de faire en m'utilisant. Que les gens réalisent l'immensité du possible en lui et qu'ils prennent conscience de ce que Dieu est Dieu. Et que la parole là, c'est Dieu. Dimanche, je vais bénir vos langues. Mais je vous préviens, quand on bénit vos langues, ne doivent pas sortir de vos bouches les insultes et les malédictions. Je n'ai pas besoin de toucher vos langues pour les bénir. J'ai l'autorité de la parole, c'est ce que je parle. Quand j'ai dit ici dimanche dernier que j'enlève les vieux vêtements, je vous mets de demande à l'Esprit Saint de vous mettre de nouveaux vêtements. Certains d'entre vous ont vu de nouveaux vêtements sur eux. Certains en temps de veille, d'autres pendant le sommeil. Ils ont vu comment ils étaient bien là. J'ai dit, ils ont fait l'envoyer, ils faisaient quelque chose de vrai. Quand j'ai dit ici recevez les armes, beaucoup de gens voient. Ils ont des armes, ils ont des épées, etc. Est-ce que c'est moi qui vois à vos places? Je suis avec vous, je suis où vous habitez. Entrez dans la beauté de la royauté en Dieu et ayez cet héritage en partage. Entrez dans la joie du possible infini et entrez véritablement dans votre royauté en Jésus-Christ. Dieu est ignoble, c'est-à-dire que ses attributs et sa perfection ne changent pas. Ses intentions à l'égard de l'humanité ne varient pas non plus. Quand vous prenez nombre 23, le verset 19, somme 102, le verset 27, à pratiquement 29, vous allez voir ces éléments-là. Nombre 23, le verset 19, somme 102, le verset 27, jusqu'à 29. Et d'ailleurs, 41, 4, le signifie aussi. Ce qui ne veut pas dire que Dieu n'a jamais mais en même temps, modifier, il n'a jamais modifié ses objectifs à la lumière des réactions de l'homme. Non, je vous le dis de façon pratique. Dieu peut changer la vie pour vous. Hein. Il y a deux façons. Ça, c'est très régulier. Comment c'est très régulier. Une relation divine. Si tu t'éloignes du péché, le mal qu'il voulait faire, il annule. Si tu t'éloignes du bien, le bien qu'il voulait faire, il annule. Il y a plein de passages dans la parole qui le dit. Il se rend compte que tu t'attaques à lui plus que tes espérances. Ce qui a été prévu de te donner, il augmente, il double, il donne la triple portion. Ouais. Vous lisez Jacques 1, 17. Vous allez voir aussi les éléments là-dedans. Il peut par exemple modifier ses intentions du jugement lorsque les pécheurs se repentent sincèrement. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jonas? Ce n'est pas qu'il a envoyé Jonas, il a dit qu'il ne va pas. Il a joué dans un bateau. C'est tout en train de balancer le bateau dans tous les sens. Il a regardé les gens et il a dit que vous savez quoi? Si, c'est moi qui peux jeter. Tout à fait, j'ai dit la cargaison pour rien. Le problème, c'est moi qui peux jeter. C'est parce que je suis dans ce bateau qu'il y a problème. Quand on a jeté Jonas, quand la baleine l'a avalé. Quand Jonas a vu la mort, il a commencé à prier dans le ventre de la baleine que Seigneur, je te promets que je vais être gentil et obéissant. Je vais t'amener. Je me laisse pas être digéré par le poisson. La baleine a recraché Jonas. Et il allait. On t'envoie. Je dis souvent certaines choses quand j'enseigne, peut-être ne comprennent pas. Quand vous recevez un message de Dieu, c'est le problème de Jonas. Jonas était juste un message. Dieu lui a dit, va dire à quelqu'un de quelque chose. Jonas a apprécié le message de moi, pour moi qui l'ai dit, vivant. Dan, tu m'as envoyé à l'est, c'est pas à l'ouest, on va voir. Il faut faire attention. Quand on a reçu une mission, on l'a compris, il n'y a pas les états d'âme dedans. Je vous ai déjà fait une préparation culturelle ici entre esprit, âme et corps. Je vous ai montré que l'esprit, c'est la communication avec Dieu. La conscience de Dieu. J'ai parlé de ça. Communication. Conscience et intuition. L'intuition, la capacité à avoir une information sans investigation. Alors que l'âme, dans l'âme, vous avez l'intelligence, vous avez la volonté, vous avez les émotions. Or, l'âme et la chair ont l'habitude de faire la guerre à l'esprit. Un homme spirituel, c'est l'esprit qui domine l'âme et la chair. Pour la chair, je vous ai parlé des cinq sens. Le corps physique, en fait. Parce que d'un point de vue de la compréhension, de l'intellection, l'interprétation, la perception de chair, vous intégrez âme et corps. La chair fait la guerre à l'esprit. Quand l'esprit de message de Dieu t'arrive par l'esprit, tu vas le mettre dans l'âme. Qui t'a dit d'aller le mettre dans l'âme? Garde ça là-bas dans l'esprit. Que l'intuition te dise qu'il faut obéir vite. Que ta conscience de Dieu t'amène à te rendre compte que tu dois être un instrument seulement pour obéir à la volonté de Dieu. Si maintenant tu veux à tout prix utiliser l'intelligence, tu dois savoir que celui qui a reçu l'Esprit Saint a la grâce d'avoir son intelligence qui est renouvelée, afin que cette intelligence obéisse à l'Esprit. L'apôtre Paul le dit, lorsqu'on a l'Esprit Saint, l'intelligence est renouvelée en Jésus-Christ. Ce n'est plus l'intelligence rationnelle, mais c'est l'intelligence spirituelle qui se déploie. Et si tu es confiant, on est en plein bien. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Dieu peut changer d'avis. Quand l'histoire de Jonas, vous n'avez qu'à lire Jonas 3, le verset qui s'agit. Depuis qu'il est libre de pouvoir ou non, de pourvoir ou non aux besoins de l'être humain et d'exaucer les prières de son peuple. Je vous dis de façon simple. Parce que mes entretiens avec le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, m'ont nourri de tout. Quand vous avez utilisé l'expression que vous utilisez pour un chef d'État, vous parlez de souveraineté. Je lis souvent quand vous parlez de ça. Un chef d'État est souverain. Hein. Si un chef d'État est souverain, Dieu lui est quoi? Dieu est la souveraineté incarnée. Il donne à qui il veut. Comme il veut. Quand il veut. Qui il veut. Où il veut. Surtout que les hommes ont une intimité avec Dieu. Ils ne pensent à lui qu'à quand ils sont calés. Dans le problème, Dieu n'a pas besoin de chercher. Mais je voulais raconter ça ici, que c'est quel genre de relation que tu as avec ton enfant. Ton enfant n'apparaît que quand il a constaté qu'il a des problèmes. Oh, il a des problèmes, parce qu'au courant, tu sais la structure des choses. Tu sais qu'il a des problèmes. C'est quand lui, il a constaté, bien en retard qu'il a des problèmes. Il apparaît. Je fais. C'est ça depuis. On ne t'avait pas dit bonjour depuis des mois. Tu ne veux pas y apparaître, papa. Tu me fais le diplôme. Je fais que le bac. Mais il faut la licence. Donc, voilà les gens d'enfants que certains hommes sont pour Dieu. Et ils sont très nombreux. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que les hommes rendent Dieu malheureux? Ça, ça la triste. Et papa, il me faut me marier. Ça, on fait le bongo, le alpha A. De A à Z, ça a pris bien sur toi, le diable a pris tout, avec tous les droits que tu lui as accordés. Maintenant, dès que tu veux marier, tu te retrouves bien ici, maintenant, ça commence à être une négociation. D'abord, il faut faire la délivrance, opérer toutes les restaurations, tout ça, il faut que tu passes tous les examens, là. Bien parce que le diable, ça fait du mal que tu vas venir déjà comme ça, il dit que tu remets tout. Tu dois mériter ta place dans le royaume. Donc, tu passes les examens, parce que c'est la seule façon pour lui de se sécuriser. Si tu te donnes ce que tu ne mérites pas, tu crois que c'est facile, les gens encore vont finir chargés sur toi. Et là, ça va être fini, ça va. Donc, il y a un sens de ton intérêt qu'il dit ici tes examens. C'est un vrai examen qui dit. Puisque, encore, dès qu'il voit ton élan de cœur, il t'a déjà soutenu. C'est le paroisseur le plus grand de tous les paroisseurs. C'est le meilleur de tous les bonifiés. On appelle ça le bonificateur. Et il aime donner le bonif. Il regarde seulement le cœur du pécheur. Si tu pries avec le cœur d'hypocrisie, ça fait zéro. Il écrit ça devant ton nom. Prière, non pas erreur. Prière, zéro sur 20 pour mauvais cœur. Si tu donnes la dîme avec le mauvais cœur, dîme non reçue pour mauvais cœur. Si tu veux donner une dîme, c'est 1 million. Ça fait non reçu. Ce n'est pas le montant qui compte. Le cœur avec lequel vous faites des choses est très important. Donc c'est ça les petites choses, on n'arrive pas à comprendre, les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses dans la relation avec Dieu. Tu as un enfant qui apparaît seulement là. Donc, quand toi tu apparais seulement quand tu as constaté des problèmes, je suis malade, je veux guérir. Non, je cherche un enfant, je veux le mariage. Donc, lui t'observe depuis. Donc lui il te plaît. Parce que toi, tu as découvert qu'il peut être utile. Vous croyez que qui nous a fabriqués? Donc pensez que quand vous aussi vous dites niais là, Dieu ne peut pas dire niais. C'est vous qui avez inventé niais. Dieu aussi peut te regarder comme ça, il dit niais. C'est même quand tu prends, tu pries la prière, ton égocentrique. Au début de la prière, pardonne-moi. Au milieu, pardonne-moi. À la fin, pardonne-moi. Il te regarde comme ça que la notion d'amour là, c'est pour les oiseaux. Toi, tu ne pries pas pour les autres. Tu ne pries pas pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, tes soeurs, ta femme, ton mari, les collègues, le pays, tu ne pries pour personne. Dieu, je suis à la peine, donne-moi. Mauvaise prière, 0 sur 20. Et tant que tu n'as pas compris ça, 0 sur 20. Les êtres humains sont curieux. Et ça, vraiment, j'ai une curiosité. Moi, ça a commencé à m'impressionner depuis que je travaille exclusivement pour Dieu. Ils souffrent entre les griffes du diable pendant 40 ans. Parfois même plus. Le jour où il tombe sur Dieu, il sent que Dieu est là. Il devient pressé et très exigeant. Mais, Dieu va quoi? Que je vous dis du brillant, c'est pourquoi il ne veut pas se faire demander. Si tu étais en enfer là-bas, ça a bien cuit sur toi. Quand Dieu t'est allé, je lui dis, comment tu es évident? Tu vas aussi être évident envers le diable qui te connaît. C'est comment non? Après le bon temps. Au lieu de vous préoccuper de savoir quels sont les examens qu'il faut passer chez Dieu, qu'est-ce qu'il me faut comprendre, apprendre, afin que Dieu soit content de moi, quelle est la préoccupation la plus saine que je dois avoir, quel type d'inquiétude je dois avoir pour que Dieu pense que je l'aime, qui vous a dit que Dieu n'a pas besoin d'être aimé. Au lieu d'avoir ce genre de soucis, vous faites des calculs, études de probabilité. Si je prie 2 jours, il faut que Dieu fasse 10 heures. Résultat, tu dis à quelqu'un de prier pendant 90 jours, phase initiale de délivrance et de restauration. Donc, ça, 90 jours, c'est long. Donc, interprétation, tu vas prier pendant 90 jours afin d'obtenir de Dieu qui a tout, qui est tout, qui possède tout, qui a la terre, tout ce qu'elle renferme, tout ce qui la vit. Après les 90 jours, tu vas rentrer dans ta boue et espérer que le Dieu là, te donne ce que tu lui demandes. Et c'est cohérent. Après, tu vas dire que Dieu-là, il est ici. Lui, dis comme ça, moi, Dieu te dit que oui. Il a raison d'être ici. Moi, en tant qu'instrument, imaginez qu'en tant qu'instrument, il y a beaucoup de malades qui me frustrent. C'est la toute première fois que je parle, quand je parle de ça. C'est qu'il n'apparaît que quand ça a pu. C'est un grand problème. Mais il ne faut pas se moquer de Dieu. Je vous donne des consignes, je vous donne des recommandations. Mon travail est de vous donner des consignes, des recommandations et de faire le travail déjà à faire par la puissance qui est déposée en moi pendant un moment précis. Je vous montre la direction. Je n'ai même pas besoin qu'on me suive. J'ai un mandat à la planète. Je vais demander aux Américains de venir dans l'église aussi. Aux Canadiens de venir dans l'église. Non. Je fais le travail parce que c'est mon travail. Il faut que les brebis de Jésus reviennent à la maison, retrouvent le Père par Jésus-Christ. Je suis un instrument, je suis un instrument, je fais le travail. Tu as des gens qui se moquent de toi. Je ne prends rien de tout ça. Je ne fournis aucun effort. Mais apparaît tu as le sourire, je me dis, mais en vrai, je suis un vrai, mon petit enfant, on va pas. On va pas. Ils ont la chance que l'esprit fait m'a appris la maîtrise. Parce que parfois quelqu'un me parle comme ça, parce que Dieu est en train de me dire là, pendant qu'il est en train de me parler, je regarde comme ça que ça c'est quelle hypocrisie, ça c'est quelle médiocrité dans la marche avec Dieu. Même le minimum là, tu ne veux pas faire, tu viens que. Et donc tu tombes comme ça, en fait, ils veulent que tu fasses leur travail. Ça, tu es à milieu de notre vie, je te mets. As-tu la Bible dans le mouvement? Comment je fais la grâce matinée? Je dis, il y a 12 heures sur le travail. Je dis, tu es aussi dans les transports, non? Mais 4 heures de prière, je ne vois pas que tu me conviens. Hein? Et ils ont une conclusion qui peut t'arracher le cœur. Ils ne savent pas à cause du niveau opérationnel de la pratique qui te font mal. Quand il a été démontré jusqu'à quel point il est médiocre, jusqu'à quel point il se trompe sur la marche avec Dieu, il finit en disant, prie pour moi alors. Parce que ça se tient en deux. Il faut prendre conscience de certaines choses dans la marche avec Dieu, parce que c'est très important, c'est extrêmement important. Dieu ne refuse que quand tu pries mal ou quand tu n'as pas compris les examens. Il peut changer d'avis. La Bible dit souvent que Dieu change d'avis à cause de la persévérance dont les justes font preuve dans la prière. Ça, c'est très important. Le juste, parfois, peut tomber, mais il est tellement persévérant que Dieu regarde la fleur là et dit que ça va, mettre mes oreilles tranquilles. C'est ce que. Mettez comme référence Nombre 14, le verset 1 à 20. Ça va vous aider. 2 Rois 20, le verset 2 à 6. Nombre 14, verset 1 à 20. 2 Rois 20, le verset 2 à 6. Ésaïe 38, le verset 2 à 6. Ésaïe 38, le verset 2 à 6. Et vous avez Luc 18, le verset 1 à 8. L'une des dernières informations que j'ai à vous donner sur Dieu, parce qu'on est dans, on est déjà vers la fin. Dieu est parfait et saint. Je vous dis ça, Dieu ne tente personne. Vous comprenez ce qu'il dit là? Dieu ne tente personne. Mais alors, non seulement Dieu ne tente personne, mais il n'est tenté par rien. Dieu n'est pas dans la chair comme nous, la chair corruptible qui fait qu'on soit tenté, tout ça. Dieu ne tente personne. Et il n'est pas tenté par le péché. Il est hors de portée du péché. Hors d'atteinte. Puisque de par sa structure et sa nature, il ne peut pécher. Il est bon de comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent des sottises et ça se propage à grande vitesse sur cette planète depuis des millénaires. Quand quelqu'un a fait bien des conneries, il récolte les fruits, soit de ce que ses arrière-grands-parents ont fait, soit de ce que ses grands-parents ont fait, soit de ce que ses parents ont fait, soit peut-être de ce que lui-même a fait. Il se trompe. Ouais, Dieu, que c'est bien ça, Dieu, tu sais quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu connais ton dossier? Si tu connaissais ton dossier, la question-là ne passerait même pas dans ton mental. Donc tu présupposes que Dieu s'est trompé et il a probablement péché. Il a un manque de sainteté sur ton cas. C'est de ce que ça signifie. Ne posez plus jamais la question, là, même mentalement. C'est qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Celui qui a compris que Dieu est saint et parfait ne peut pas poser cette question. La question est de savoir qu'est-ce que je n'ai pas encore fait. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait en Jésus-Christ afin que ma vie soit meilleure? Beaucoup d'églises de regret ont tendance à balancer cette question, mais ils la balancent de façon intime. Parce que la façon dont ils la balancent va avec un suivi immédiat, c'est-à-dire, viens chez nous. Et ça rend le message intime. C'est une question principielle, parce que c'est une question de principe, avant d'être la question principale qu'il faudrait se poser. Quelle est ta relation à Dieu? C'est une question fondationnelle, fondamentale. Mais elle est très souvent mal posée par les gens intimes, même parfois. Dans la relation à Dieu, celui qui manque d'épaisseur, de quantité et d'appropriation même du sens, de l'essence et de la quinte essence de la question qu'il pose. Quand on demande quelle est ta relation à Dieu, quelle est ta relation à Jésus-Christ,
c'est pour t'aider à recadrer l'essentiel de toute ta vie sur cette question-là et donner une direction, un sens, un contenu, une vie, une dynamique, une lumière, tu peux.
Amen.
Dieu est parfait. Dieu est saint. Si tu commets tes erreurs, ne commence pas à accuser Dieu. Si tu es dans la boue, n'accuse pas Dieu. Et si tu ne sais qu'une photographie de la vie des gens dont tu ne connais rien, tu commences à dire que, mais il y a des gens, regarde, ils ont tout, ils ont les voitures, tu connais quoi de leur vie? Premier cas de figure, si tu es en train de parler de quelqu'un dont les parents ont tellement souffert que la récompense descend sur les enfants. Tu viens juger la vie de quelqu'un, tu ne sais pas. Deuxième cas de figure, tu peux en train d'apprécier, d'envier des gens qui sont en alliance profonde avec le diable. Et tu n'es pas là pour regarder d'un temps après quelle est la récompense de leur satanisme. Tu les envies ponctuellement, parce que tu as fait une photographie de leur vie, ponctuelle, un seul instant que tu as eu. Troisième cas de figure, tu n'es en train d'observer quelqu'un qui a peiné vraiment dans la marche avec Dieu. Et tu reconnais les fruits saints du travail qu'il a fait pleinement dans la marche avec Dieu. Toi, tu viens le juger. Tu compares. Tu compares quoi? Et bien, ça vient ça de figure. Tu es en train de comparer quelqu'un, de comparer à quelqu'un qui a le mandat déjà de ce qu'il a. Tout le monde n'a pas à être riche financièrement. Mais tout le monde a vocation à être riche en Jésus-Christ. Comme beaucoup croient que la richesse va seulement être financière. Quand tu as des hommes spirituels, n'est-ce pas de la richesse? Quand tu as en bonne santé, n'est-ce pas de la richesse? Quand tu as tous tes enfants heureux, n'est-ce pas de la richesse? Quand tu as autant de diplômés dans ta famille, n'est-ce pas de la richesse? Quand tu as une maison bien construite, n'est-ce pas de la richesse? Quand tu as la paix du cœur et de l'âme, n'est-ce pas de la richesse? Vous savez combien de gens qui ont de l'abondance matérielle sont malheureux sur cette planète? Pourquoi vous les enviez? Dieu est saint et parfait et il est juste. Il faut cesser de voir les choses de façon superficielle, artificielle et ponctuelle dans la marche avec Dieu. Et comprendre de prime abord, d'un point de vue principiel et d'un point de vue fondamental et même fondationnel, que Dieu est juste. Que Dieu est saint. Et qu'il est parfait. Il n'y a pas d'imperfection en Dieu. Tout ce que vous ne comprenez pas a une explication. Dès le moment où vous avez la grâce d'apprendre la parole. Celui qui est en contact avec la parole commence à trouver du sens en tout. Et comprend que les choses sont à leur place. Celui qui apprend la parole ne peut pas croire un seul instant de sa vie au hasard. Le hasard n'existe pas. La chance n'existe pas. La malchance n'existe pas. Démonstration. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois dans l'espace public. Je prends deux garçons. Un s'appelle Jean, l'autre s'appelle Pierre. Le Cameroun vient de remporter une Coupe d'Afrique. Parlons donc de football. Jean prend le ballon au milieu du terrain. Il shoot dans le camp de Pierre. Le ballon monte. On voit le ballon monter. Improbabilité qu'un tel ballon soit dangereux. Le ballon traverse tous les joueurs et il est en train de prendre la direction du gardien. Il arrive à quelques mètres dans la surface de réparation, il commence à rebondir. Pouf, une fois, pouf, deux fois. Le gardien ne voit pas le danger. Troisième rebond. Le ballon tombe sur un petit caillou. Accélération et déviation, le but entre. Qui a tiré ces 16 ans? Depuis où? Le milieu de terrain. Les supporters de Jean, de l'équipe de Jean, ses coéquipiers vont dire que le but là c'est la chance. Les coéquipiers de Pierre et les supporters de l'équipe de Pierre vont dire que le but là c'est la malchance. Si un autre voit en train de regarder le match, il ne supporte aucune équipe, il va dire que c'est le hasard. Un seul phénomène, trois interprétations, où est la vérité? La vérité, c'est qu'il y a un ensemble de réalités dont vous n'avez pas conscience, qui sont purement spirituelles, qui ont permis à Jean de marcher ce but improbable. Le but était déjà marché spirituellement, il fallait seulement qu'il entre. Vous n'applaudissez pas pour l'écouter. Je vais vous
vous dire une vérité.
Lorsque je regardais les matchs de la CAN, à cause de l'analyse spirituelle, j'ai commencé à comprendre le sens des matchs. Quand je regardais un match, au bout d'une mi-temps maximum, je disais toujours à la personne qui était associée, bon, ici là, on va gagner. Parce que je lis ce qui se passe. Ici là, on va gagner. Ça là, on va gagner. Même si on est venu, je dis que non, le match, on va gagner. Pourquoi? Dès que je suis là tranquille, le truc me montre spirituellement que le match est en faveur du Cameroun. Je ne vais pas m'embrouiller. Mais j'ai eu des joies comme vous. Des moments de joie intense, parce qu'il y a la beauté du geste, la beauté des choses. J'ai été très content de voir Bassorok marquer son but en demi-finale. Et j'ai eu le but de... Vous voyez, il y a des gens qui ont écrit que les Égyptiens contestent le but parce que non, ça. Moi, j'aime les intérêts. Que les Égyptiens contestent le but parce qu'on a christianisé un musulman. Mais quand vous commencez à comprendre que tout est d'abord spirituel, vous devez savoir que rien ne s'accomplit si ça n'a pas déjà été accompli dans le monde spirituel. On a eu un drame l'année dernière à Égypte. Beaucoup de gens ont vu l'accident la veille. Beaucoup, je vous dis, c'est pas comme on m'a dit. Beaucoup de gens ont vu l'accident la veille parce que les gens avaient fait cet accident. Ils ont décidé de sacrifice humain. C'est les renouvellements de contrat de fin d'année, ils ont seulement un peu anticipé. Il avait prévu de beaucoup tuer pendant la campagne féminine.
Ouais.
C'est dans ce ministère qu'on a prié fort pour annuler ça.
Amen.
C'était prévu. Donc il avait prévu faire des sacrifices en chaîne jusqu'à la fin de l'année.
Amen. Bon, ouais.
C'est là-bas spirituellement que ça se passe. Après vous avez dit que Dieu n'est pas juste. Il n'est pas parfait. Comment il a été là? Tu sais ce qu'il s'est passé dedans. D'ailleurs, quand tu n'es pas en Jésus-Christ, il n'y a que deux camps. Tu es dans l'autre camp, non? Quand tu es dans le camp de l'autre, tu te plains de quoi? Tu ne cherches pas, Jésus n'intéresse pas à parole, tu ne cherches même pas à pratiquer de quoi que ce soit. Et puis tu déranges les gens. Que Dieu est injuste. Non, il est imparfait. Il n'est même pas saint.
Ouais.
Donc tu augmentes même les malédictions sur toi. Si parler contre l'homme de Dieu, tu viens attraper les malédictions. En plus, on te fait raison parler contre Dieu. Dieu n'a jamais péché. Et tout ce qu'il fait est absolument juste. Vous pouvez lire le passage de Lévitique 11, versets 44 à 45. Lévitique 11, 44 à 45. Psaume 85, verset 14. Psaume 145, le verset 17. Et Matthieu 5, le verset 48. Quand Adam et Ève ont été créés sans péché, Naphré avait la capacité de pécher. Dieu, lui, n'a pas eu ce problème de péché. Sa sainteté inclut également sa consécration amenée à bien ses projets et son plan. La dernière chose que j'ai en train de vous dire concernant Dieu, oui, je lis les passages, j'ai dit ceci. Lévitique 11, 44 à 47. Psaume 85, verset 14. Psaume 145, verset 17. Matthieu 5, verset 48. Si vous voulez parler d'Adam et Ève dans la création, c'est Genèse 1, verset 31. Et le fait que Dieu ne peut pas pécher, vous avez Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. 2 Timothée 2, verset 13. Nombre 23, verset 19. 2 Timothée 2, verset 13. Titre 1, verset 2. Titre 1, verset 2. Hébreux 6, verset 18. Dieu est saint. C'est-à-dire quoi? T-R-I-N. Ce qui signifie qu'il est un Dieu unique. Ce n'est pas parce qu'il y a la Sainte Trinité que c'est plusieurs dieux. C'est un trois en un. Les trois manifestations, les trois personnalités qu'il a montrées. Dieu est unique. Deutéronome 6, verset 4 le dit. Dieu est unique. Deutéronome 6, verset 4. Ésaïe 45, verset 21. 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6. Il s'est manifesté sous la forme de trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Disons ensemble Matthieu 28, 19, Matthieu 28, 19, 2 Corinthiens 13, verset 14. Et pour lire ces passages, je vous demande de vous lever parce qu'on est en train de conclure. Lisons ensemble Matthieu 28, 19, 2 Corinthiens 13, verset 14.
Matthieu 28, 19. Vous êtes écrit. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Dans Dieu, demande de le baptiser au nom des trois formes qu'il a montrées à l'homme. Il s'est montré en tant que Père, il s'est montré en tant que Fils, il s'est montré en tant qu'Esprit Saint. Et c'est à ce nom qu'on baptise. Que dit 1 Pierre 1, verset 2 ?
1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen.
Amen. Que cette parole s'accomplisse en ce lieu.
Amen.
Dans chaque personne est pleinement divine et égale aux deux autres. Il ne s'agit pourtant pas de trois dieux, mais d'un seul. Il faut bien comprendre ça. Il ne s'agit pas de trois dieux, mais de trois dieux, mais d'un seul. Que dit Matthieu 3, le verset 17, et Marc 1, le verset 11? Matthieu 3, verset 17, et Marc 1, verset 11.
Matthieu 3, verset 17. Et voici, c'est le voix qui entend dans les cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen.
Amen. Ce moment a quelque chose de particulier. Quand une voix ceci entend, celui-ci est mon bien-aimé. Au moment du baptême de Jésus-Christ, les trois sont présents. L'Esprit est représenté sous la forme de la colombe qui descend sur le Fils et le Père qui parle au ciel. Les trois représentations de la divinité, le Père qui s'est sont présents en ce moment du baptême. Il faut qu'il vienne bien interpréter. Si le Saint ne vous donne pas la clairvoyance sur la que vous ne voyez pas l'instant, vous ne perdez pas l'instant. Le Père et le Fils. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont présents au moment du baptême de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de fondamental. Le dernier passage que j'ai donné, c'était quoi?
Marc 1, verset 11. Et une voix qui entend des cieux ses paroles. Tu fais mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen.
Amen. Ces deux passages sont similaires. Il y a juste une nuance. Mettez-vous en position de réflexion. Il y a quelque chose à recevoir pour vous. Père éternel, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le créateur de l'univers visible et invisible, toi qui as créé la terre, tout ce qu'elle renferme et tout ce qui y habite, nous te glorifions, nous te magnifions pour l'ensemble de la création. Nous te bénissons, Père éternel, pour l'ensemble des œuvres que tu as étalées sur cette planète. Nous te bénissons, Père éternel, pour tes ministères, pour tes joints, pour les onctions. Nous te bénissons, Père éternel, pour ton peuple que tu sors de la captivité de l'esclavage. Nous te bénissons, Père éternel, pour ton peuple que tu sors de l'oppression, du champ d'errance pharaonique. Seigneur, pour tous les péchés que nous avons commis devant ta face, que ce soit en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par négligence, par nonchalance, par relâchement, te supplions, Père éternel, de ne rien retenir contre nous. Que ces péchés aient été commis de jour comme de nuit, du monde visible au monde invisible, sans de veille ou sans de sommeil. Te supplions, Père éternel, de ne rien retenir contre nous. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes ici. C'est ta parole même qui dit que là où Dieu ou toi se mettent ensemble, c'est un beau qui est présent. Et nous savons à cause de ces habitudes et des habitudes que tu nous as données, que tu es arrivé ici avant nous et que tu resteras ici après nous. Que tu es avec nous, partout où nous sommes, parce que nous avons la grâce d'être cet enfant. Nous avons la grâce d'avoir migré du statut de créature à celui d'enfant de Dieu et particulièrement de suivant d'enfant de Jésus-Christ. Seigneur, parce que tout ton peuple fait réunir aujourd'hui, a répondu favorablement à ton invitation. Je demande par l'autorité de Jésus-Christ qu'une onction spéciale descende, afin que l'enseignement soit scellé dans le cœur de chacun d'entre eux ici présents. Afin que l'enseignement soit fortifié, affermi, développé dans le cœur de chacun d'entre nous ici. Afin que chacun d'entre nous tire les bénéfices de cet enseignement à partir d'aujourd'hui.
afin que Père éternel, à travers cette parole qui est Dieu, cette parole qui est toujours avec Dieu, cette parole qui peut tout faire, afin que Père éternel, elle puisse s'accomplir dans nos vies selon tes plans et selon tes voies. Seigneur, je demande une onction spéciale qui permette à ce que tout ce qui est mal dans le corps des uns et des autres ici, esprit, âme et corps, que ce soit expulsé maintenant. Je demande une onction spéciale pour récompenser tous ceux qui ont pris sur eux de venir. Je demande une onction spéciale pour affermir chaque personne ici contre le péché. Je demande une onction spéciale, Père éternel. Toutes ces onctions, je les demande parce que tu sais jusqu'à quel point ta parole est importante. Je demande une onction spéciale pour affermir tout le peuple ici dans le jeûne, pour affermir tout le peuple ici dans la prière, pour affermir tout le peuple ici dans la lecture de la parole, pour affermir tout le peuple ici dans la persévérance en matière de marche avec Dieu, pour affermir tout le peuple ici dans la patience envers Dieu, dans la patience dans les voies de Dieu, pour affermir tout le peuple ici dans l'obéissance à la parole, pour affermir tout le peuple ici dans la foi en Jésus-Christ, qui prennent conscience de que Jésus-Christ est avec eux, qui prennent conscience de que qui fait confiance en Jésus-Christ, et qui a la ferme assurance de ce qu'ils espèrent en Jésus-Christ. Je demande une onction spéciale pour nourrir tout le peuple ici, dans tous les compartiments de ce que tu appelles amour. Que cette onction descende maintenant, qu'elle remplisse cet espace, qu'elle nourrisse chaque personne ici, et qu'elle accompagne chacune des personnes ici, la nourrissant minute après minute, pendant la nuit, pendant la journée, dans toutes les activités, dans tous les milieux. Que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie abondamment dans vos vies. Je déclare par l'autorité de Jésus-Christ la prospérité dans vos vies. Je déclare l'abondance dans vos vies. Je déclare la miséricorde, je demande la miséricorde de Dieu dans vos vies. Je déclare par l'autorité de Jésus-Christ la richesse matérielle et financière dans vos vies. Je demande pour le Père éternel dans vos cœurs la paix de l'âme et du cœur. Je demande par l'autorité de Jésus-Christ la réparation de tous les compartiments de vos vies et votre restauration complète. Je demande la continuation et l'achèvement de vos délivrances dans tous les compartiments où l'ennemi vous tenait encore. Et que le Seigneur se serve de cette soirée si particulièrement pour vous élever encore et encore. Lui qui a dit, parce qu'il vous devait savoir que nous sommes en plein examen, qu'il nous fortifie par lui-même parce que sa parole le dit, qu'il le fortifie encore et encore, qui nous a permis dans cette parole et qui te glorifie. Que Dieu vous bénisse.
Amen.